Salut à tous et bienvenue dans Tech Café, je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission hebdomadaire que nous enregistrons le 17 avril 2019. J'ai l'immense plaisir d'avoir tout un conducteur d'émissions qui me paraît captivant et très varié, comme on le disait juste avant. Et je dis on parce que je suis accompagné une nouvelle fois du pilier du comptoir de Tech Café, Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ?
Bah écoute, ça va, tu me remets la même chose, hein.
Ah oui, absolument, je vous en resserre un autre. C'est pour moi cette fois-ci. Merci beaucoup pour la préparation de l'émission qui est faite encore une fois en grande partie par Guillaume. Mon quotidien est particulièrement compliqué en ce moment, c'est encore pire que d'habitude. Mais c'est avec grand plaisir que je suis les news et que je vois un petit peu toutes les préparations de Guillaume. Et j'en profite pour vous dire que si vous ne l'avez jamais fait, allez sur techcafé.fr. Bon, d'une part parce qu'il y a les notes de l'émission, parce que vous pouvez réagir aux commentaires, en commentaire aux articles qui accompagnent la publication des épisodes, parce qu'il y a plein de liens, notamment sur les réseaux sociaux, sur le groupe Telegram où vous pouvez discuter entre vous et avec nous. Il y a le lien aussi sur l'espace de financement participatif Patreon, où il y a 125 personnes qui soutiennent toutes les semaines Tech Café. Je vous invite évidemment à en savoir un petit peu plus sur le site, mais surtout, allez regarder la manière dont Guillaume rédige et structure les articles, ou plutôt les news qu'on aborde dans l'émission. Alors parfois, je remets peut-être un peu le bazar dans les enchaînements de Guillaume, parce que je rajoute des news parfois à la dernière seconde. J'espère que je ne casse pas tous tes enchaînements, mais par contre, sur la façon de les rédiger, il y a toujours des petits clins d'œil. C'est des choses qu'on ne relaie pas forcément dans l'émission et qui méritent d'être allées consulter. Guillaume, tout va bien ?
Ça va. J'espère que je vais pas perdre ma voix ce soir. Mais...
Oui, on le disait juste avant qu'on enregistre l'émission, c'est qu'on est tous les deux un petit peu affectés, peut-être à des niveaux différents, mais bon, on espère que ça va tenir. Les rhumes n'ont pas encore disparu. On peut être surpris parce qu'on voit le soleil, mais ça peut nous tomber dessus. Allez, sans autre forme de procès, on attaque avec les news. La news la plus récente et qui peut-être aura marqué les esprits, on va évidemment pas redétailler, c'est l'incendie qui a ravagé la toiture de Notre-Dame de Paris, qui a eu, alors je fais une petite parenthèse pour dire à quel point je suis marqué, Guillaume, on n'est pas encore dans la tech, on va l'aborder dans quelques secondes, mais je suis marqué de voir à quel point cet événement a engendré des réactions à l'international incroyables. Parfois, je peux avoir le sentiment que quand on est en France, qu'on regarde notre patrimoine, qu'on pense à notre pays, etc., on a une image positive, certes, mais on se dit que c'est parce qu'on y habite et que ça doit être le cas de tout le monde dans le monde, ce qui doit être en partie vrai. Mais je suis très marqué de voir tous les retours et toute l'attention qui peut être portée à l'international. Moi, j'aurais honnêtement pas anticipé du tout qu'il y aurait une telle attention à l'international sur cet événement. J'arrive à me demander si, une fois de plus, les réseaux sociaux, la manière dont on peut le relayer, dont on voit les images en live, ne peut pas aussi participer. Mais je crois qu'il y a beaucoup plus que ça. T'as été surpris, toi aussi, ou est-ce que tu trouves ça normal? Tu t'aurais pu t'attendre à ce qu'il y ait autant de suivi et de réactions à l'international?
Non, moi j'ai été surpris aussi parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on a la même quantité, la même sensibilité à l'effondrement de Notre-Dame que si ça avait été la Tour Eiffel, tu vois.
Ouais.
Moi je me serais attendu à une vague comme ça d'émotion si la Tour Eiffel s'était effondrée, tu vois.
Exact.
Mais Notre-Dame apparemment c'est aussi connu et voilà, c'est un monument qui est aussi apprécié. Bon voilà, ça fait toujours plaisir évidemment, mais c'était pas évident effectivement.
Et puis on mesure pas effectivement la portée culturelle que ça peut avoir. Bon, il y a eu un Disney autour de Notre-Dame de Paris, évidemment. Donc, je dis pas que c'est ça qui a fait la notoriété de Notre-Dame, mais je pense que c'est représentatif.
Non, c'est Garou.
Oui, c'est Garou. Merci de le rappeler. On s'attarde un petit peu trop sur des éléments qui sont pas de l'ordre de la tech. Moi, je voulais juste, évidemment, rebondir sur cet événement qui est assez récent, et puis relayer les quelques éléments qui ont tourné autour, parce que, et on va parler dans cette émission de controverses, on va aussi parler de choses un petit peu plus joyeuses, on va parler d'évolution technologique autour des jeux vidéo. On va aussi parler de Julian Assange. Donc évidemment, cette émission risque d'être largement complète. Vous pouvez d'ailleurs sauter d'un chapitre à l'autre sur votre smartphone dans le lecteur de podcast. Mais là, dans le cadre de l'incendie de la toiture de Notre-Dame, il y a eu simplement cette mention de l'algorithme de YouTube qui relayait en live les vidéos de notamment de France 24, mais pas que, qui relayait les images de ce qui se passait en live, et on a eu la démonstration du nouvel algorithme de YouTube qui est censé nous protéger des fake news et de nous alerter. Et là, bah, patatras, on a eu des annonces accolées à la diffusion en live qui faisaient référence aux attaques du 11 septembre pour rétablir un petit peu les vérités de l'époque et ne pas se laisser gagner par des interprétations complotistes de ce type d'événement. Et évidemment, c'était hyper mal choisi. Ça laissait associer des choses. Je vois pas trop d'ailleurs dans quelle mesure est-ce qu'il y a eu des comparaisons. Je pense qu'évidemment la diffusion d'un incendie, de fumée aussi présente, et puis peut-être plein d'autres éléments qu'on n'identifiait pas, ont associé les événements entre eux. Mais du coup, ça a eu un peu l'effet escompté. Bon, il y a peut-être pas grand-chose à en commenter. Peut-être que t'as une réaction dessus, mais je voulais juste mentionner ça parce que ça montre encore une fois à quel point ce qu'on relaye dans tes cafés durant tous ces épisodes, qui est de dire à quel point l'information qui est véhiculée, la véracité de la source des informations telle qu'on la consulte, c'est pas gagné. Les plateformes ont encore beaucoup de boulot, et là c'était un exemple frappant, hein.
Oui, alors c'est vrai que suite à cet incendie, c'est vrai que l'algorithme anti-infox de YouTube s'est un petit peu emballé. Alors il affichait un article de l'Encyclopédia Britannica sur le 11 septembre, effectivement, et que dans certains pays, comme les États-Unis ou la Corée. Et bon, cet algo, il est censé afficher les sources fiables en face des vidéos douteuses pour faire contrepoids, en quelque sorte. Et là, pour une raison mystérieuse, il a jugé que cette vidéo était douteuse. Bon, ça a été corrigé rapidement. Peut-être que juste, c'était tellement improbable que ça a surpris l'algorithme qui a fait un petit peu n'importe quoi. Je sais pas trop. Enfin, tous les cas, il n'y avait pas besoin de ça, parce que les vrais conspirationnistes, eux, ils se sont empressés de faire circuler toutes sortes de rumeurs sur Internet concernant l'incendie, hein. Alors bien sûr, ça peut pas être un simple accident, c'est un acte volontaire sur l'InfoWars, c'est un attentat sur le faux compte Twitter de CNN, donc méfiez-vous, hein, y a des faux comptes Twitter, évidemment, qui balancent un peu n'importe quoi. Puis il y a des gens d'extrême droite, hein, toujours sympathiques, qui compilent des réactions prétendument positives de comptes Twitter à consonance arabe. Bon, voilà, j'en passe. Bref, il y a une bonne dizaine de fakes et de théories fumeuses qui circulent déjà, qui circulaient déjà moins de 24 heures après l'accident, en fait, hein. Bon oui, je rappelle, pour le moment, personne n'a le plus petit début de preuve que ce soit autre chose qu'un malheureux accident. Bon. Alors, effectivement, pour revenir un petit peu dans la tech, pour ce qui est de la restauration, il faut quand même savoir que la reconstruction, même hein, pour certaines parties, ben, la tech pourrait avoir un rôle majeur à jouer parce que Notre-Dame a été intégralement scannée en 3D au laser. Et ce, dès 2015, par un mec qui s'appelle Andrew Talon, qui est un Américain. La précision était quand même de 5 mm avec des photos à 360.
Je savais pas, ça, 5 mm, tu te rends compte, à l'échelle d'un bâtiment comme ça, c'est hyper précieux,
ouais.
Du coup.
Ah, ils avaient, oui, absolument, ils ont un nuage de points absolument monstrueux pour reconstruire la basilique, et alors, la basilique, la cathédrale. Et en plus, il y a pas que lui, il y a aussi d'autres gens qui ont fait, par exemple, des mappings en 3D de la structure interne, donc de la toiture, tu vois, de la charpente. Mm-hmm. Et il y a aussi des morceaux qui étaient complètement interdits au public, qui n'étaient pas visibles du public, qui ont aussi été scannés en 3D par d'autres startups, quoi. Donc c'est, voilà, il y a une sorte de backup, voilà, que nous ont légué ces historiens, dont Andrew Talon, qui est malheureusement décédé d'ailleurs, il est mort l'année dernière, et qui pourrait s'avérer vraiment très précieux pour toute la phase de reconstruction.
Y compris la modélisation d'ailleurs dans une autre mesure, hein, dans Assassin's Creed Unity, qui se passe justement à Paris et qui met des scènes, bah, entre autres, très valorisantes de Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Ubisoft alors a rejoint le club de toutes ces marques qui participent financièrement à une cagnotte géante pour la reconstruction de la toiture de Notre-Dame. Donc eux, ils participent à la hauteur de 500 000 euros, ce qui est sans doute bien en dessous des grandes fortunes qui ont été annoncées, puisque les cagnottes qui tombent à 100 millions d'euros, 200 millions d'euros, c'est pas d'ailleurs sans soulever des controverses. Alors forcément, c'est toujours un peu facile, pourquoi cet argent a pas été mis à disposition des plus démunis, tiens, quand il y a des choses qui laissent place à de l'image et qu'on peut surfer sur un événement, c'est plus facile. Bon, j'ai pas trop envie de rentrer dans ces spéculations qui ne sont pas très, encore une fois, tech, et puis je me suis exprimé un tout petit peu sur Twitter sur le sujet, mais Ubisoft t'en profite aussi. Alors j'étais curieux d'avoir un petit peu ton avis sur ce coup d'image ou ce clin d'œil, je sais pas comment le prendre, sur le fait qu'ils offraient Assassin's Creed Unity à tous ceux qui allaient le chercher sur leur plateforme pendant une semaine. Là, si vous êtes sur PC, vous pouvez télécharger gratuitement Assassin's Creed Unity. Bon, moi je suis peut-être un peu naïf, mais je fais partie des personnes qui considèrent que tous ces gestes là bon, ils sont pas effectivement complètement désintéressé, mais je trouve pas ça non plus exagéré. Je trouve pas non plus que ce soit une manière de récupérer totalement l'événement. Oui, un petit peu, mais je trouve ça plus positif qu'autre chose de faire ce signe-là. Je sais pas comment tu percevais ce point de détail.
Non, mais moi je le perçois aussi assez positivement en fait. Hein. Je suis d'accord que oui, c'est 100 millions qui permettent de, bah oui, qui permettent aussi de se faire de la pub. Hein. Ça redore pas mal le blason, 100 millions, 200 millions sur la table. De l'autre côté, il faut quand même pas oublier que si c'est 100 millions qui sont donnés par Pino, c'est quand même 100 millions d'argent public en moins qui aura à sortir. Et du coup, c'est quand même 100, 200, 300 millions d'euros d'impôts en moins, voilà, qu'il faudra sortir, enfin qui partira de notre poche à nous, quoi. Donc quelque part, ça profite quand même à tout le monde, ce truc-là.
Oui, oui et non, parce qu'il y a quand même cette déduction fiscale. Alors, j'ai pas tous les détails, et puis je suis pas fiscaliste.
Il paraît que Pinot a refusé la déduction fiscale.
À moi qui ne les refuse, mais c'est vrai que ces participations-là font l'objet, alors, soit de 60% de déduction fiscale, soit peut-être jusqu'à 90%, comme ça semble être le cas et comme ça a été demandé par certains acteurs politiques dans le cadre de sauvegarde de patrimoine. Donc, là, ça rentrerait évidemment pile dedans. Maintenant, oui, le bon sens ultime, ce serait de refuser effectivement la déduction fiscale qui va derrière, quoique, après tout, quoique. Et donc, justement, on parlait de YouTube juste avant, et tu avais un élément qui était directement en lien avec YouTube. Tu voulais faire mention d'une nouvelle métrique responsable. De quoi s'agit-il, Guillaume?
Ben en fait, on sait pas trop. C'est vrai que pour limiter les controverses, YouTube teste de nouvelles métriques, hein, c'est-à-dire des nouvelles manières de mesurer le succès d'une vidéo. Donc il en existe plusieurs qui se combinent. Donc, par exemple, le temps total que passent les gens à regarder telle vidéo, ou alors à quel point ils interagissent avec cette vidéo par des commentaires, ou des petits pouces en haut ou en bas. Et depuis 2012, jusqu'à maintenant, d'ailleurs, le critère principal, c'était plus ou moins cette interaction-là, quoi. Sauf que crowdsourcer, en quelque sorte, hein, l'évaluation des vidéos, c'est pas forcément idéal, hein, parce que c'est pas parce qu'une vidéo est débile qu'elle est pas regardée. Ouais. C'est pas parce qu'elle est politiquement ou moralement discutable qu'elle peut pas faire des millions de pouces en haut. Ouais. Bon, voilà. Et puis, à l'inverse, on sait aussi que les cas de sabotage sont pas rares, hein, que les campagnes de dénigrement, ça existe, c'est sûr. Donc, pour aller au-delà, YouTube va introduire une nouvelle métrique qui mesurerait le temps de qualité.
Voilà. Alors ça me paraît un poil subjectif quand même, à chaud, mais...
C'est complexe, hein. Donc pour les vidéos qui seraient plus intéressantes avec des contenus, des produits plus constructifs, alors ça serait gagnant-gagnant, en l'occurrence, ça, parce que les utilisateurs se feraient recommander des vidéos plus intéressantes, et les publicitaires aussi seraient assurés de pas être associés à des vidéos stupides et dégueulasses. Comme ça a été le cas par le passé, je le rappelle. Donc, comment fonctionnera cette métrique entre guillemets responsable? Pour l'instant, on ne sait pas. Hein, nul ne le sait, même chez YouTube. Je pense qu'ils font des tests avec divers algorithmes. On verra bien ce qui sera le plus efficace. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu que des humains soient inclus dans le process, parce que déjà, je vois pas très bien comment un algo pourrait faire la différence, honnêtement. Et même si c'est du deep learning, admettons que ce soit du deep learning à un moment donné. De toute façon, il faudra bien qu'il y ait donc des références. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail humain qui va être fait là-dessus, et parce que voilà, que ce soit des algos, des IA, les humains sont encore très largement indispensables, comme on va le voir d'ailleurs avec l'histoire d'Alexa très prochainement là, dans cet épisode.
Oui, on peut parler d'intelligence, mais pas encore forcément de bon sens. Moi, j'avais juste une question par rapport à ça, Guillaume, pour être sûr de bien comprendre la portée de cet algorithme. Est-ce qu'il concerne les vidéos qui sont recommandées une fois qu'on a vu une vidéo? Est-ce qu'il recommande les tendances, donc en gros ce qui remonte dans les classements quand on va sur YouTube, que ce soit sur... Alors l'accueil, c'est en partie lié à ce qu'on a comme abonnement, mais il y a aussi des recommandations, donc là aussi ça pourrait être lié à ce à quoi on est abonné. Puis il y a aussi les tendances qui sont là aussi pareil, hein, par rapport à ce qu'on consulte, mais qui sont aussi liées à ce qui se passe en ce moment pour faire de la découverte sur YouTube. C'est un peu un mélange de tout ça, ce que fait l'algorithme.
Oui, en fait cette métrique, elle est utilisée par dans tous les aspects, et en particulier pour l'aspect business, hein, c'est-à-dire l'aspect pour les recommandations publicitaires. Ouais, exactement. Pour ça que c'est très touchy, parce que forcément ça touche le cœur de métier quand même de YouTube, hein. Donc ils vont faire vraiment très attention, mais voilà, c'est pour ça que ça pourrait être quelque chose qui aura un impact assez important. Puis s'il y a quelque chose de vraiment intéressant qui émerge, ça pourrait influencer l'industrie dans son ensemble.
Bon, écoute, on suivra ce qui se passe du côté de YouTube. On va être vigilant hein, sur toutes les plateformes et ce qu'ils mettent en place pour nous offrir le monde numérique le plus sain possible. En attendant d'arriver dans ce monde peut-être utopique auquel on n'arrivera jamais, mais en tout cas de s'en approcher, on va pleinement verser dans la controverse puisqu'on va relayer pas mal d'éléments justement qui font controverse. Alors, le premier en date, le premier dans cette liste en tout cas, c'est là aussi un événement évidemment récent, c'est l'arrestation de Julian Assange. Alors, pour remettre un tout petit peu les choses dans leur contexte en quelques mots, mais je suis sûr que tu vas le faire de manière plus détaillée que moi, Julian Assange est une des personnes, puisqu'il y en a plusieurs, hein, derrière Wikileaks. C'est un peu la figure de proue, la figure emblématique et médiatique de Wikileaks, qui est une plateforme qui, alors comme son nom l'indique, est une espèce de mise à disposition de contenu d'information, wiki, sur Internet, mais leaks, donc qui s'appuie sur des fuites pour dénoncer un certain nombre de choses qui seraient moralement gênantes ou qui pourraient interpeller en tout cas la population. Et l'idée de départ, honnêtement, elle est super noble. Et il y a eu d'ailleurs des portées assez, là aussi, nobles, je trouve, qui moralement sont très intéressantes, notamment le fait d'avoir dénoncé des attitudes et des actes vraiment graves et choquants, notamment de la part de militaires dans le cadre de bavures. De grosses bavures, des choses qui ont concerné la mort délibérée, voire presque par certains aspects amusés, de journalistes, de civils et de personnes qui n'ont pas lieu d'être tuées, d'être assassinées. Mais c'est un des éléments. Et il y a un acteur aussi très emblématique quand on parle de Wikileaks et de Julian Assange. C'est Chelsea Manning, qui était une personne qui était militaire et qui a participé à la récupération de ces informations, de plusieurs informations qui étaient considérées comme secret défense et qui les a transmises à Wikileaks. Et il y a eu d'ailleurs entente, il y a eu des conversations hein, qui ont été récupérées entre Julian Assange et Chelsea Manning, qui à l'époque n'était pas Chelsea Manning d'ailleurs, pour la petite anecdote et pour être sûr que tout le monde soit bien au fait, j'ai plus le nom de Chelsea Manning avant que ce soit Chelsea Manning. Je sais pas si tu l'as en tête, Guillaume.
Non, désolé, je
l'ai plus, mais c'était un homme et donc maintenant c'est désigné comme une femme. Mais en tout cas, c'est cette situation qui amène aujourd'hui à avoir Julian Assange qui est poursuivi par les États-Unis. Il y a eu plusieurs aspects, notamment politiques, avec Obama qui avait eu certaines attitudes avec Trump. Julian Assange a eu une notion de flirt un peu compliquée parce qu'il a quand même pas mal dénoncé Hillary Clinton dans le cadre des élections présidentielles, et quelque part il a, même si c'était pas explicite, soutenu d'une certaine manière Donald Trump, qui finalement ne lui a pas pour autant laissé la vie tranquille, puisque toute l'administration est désormais en attente de juger Julian Assange sur ces éléments-là. Alors, Julian Assange est aussi accusé d'autres éléments. Il y a eu notamment des histoires de viol dans certains contextes politiques et légaux d'autres pays. Donc, on va peut-être pas pouvoir rentrer dans les détails, ce serait trop compliqué et à mon avis, on serait pas précis et exhaustif. En tout cas, il était réfugié dans l'ambassade de l'Équateur en Angleterre, et l'ambassade de l'Équateur en Angleterre a dit ça y est, désormais, alors changement de politique, hein, on ne protège plus Julian Assange, et il a été mis à disposition et donc extradé vers les États-Unis. Est-ce que je fais un résumé à peu près compréhensible, Guillaume, et est-ce que j'ai pas dit trop de bêtises?
Non. Donc maintenant, je peux faire le résumé moins compréhensible et plus long, si tu veux.
Plus détaillé.
Non, mais c'est la grande actu de la semaine. Hein. C'est vrai, Julian Assange a été arrêté en Angleterre après 7 ans passés dans une toute petite pièce de l'ambassade équatorienne. Donc c'est quand même un traitement très difficile, hein, qui aurait rendu à peu près folle dingue n'importe qui. Et d'ailleurs, les photos montrent bien un homme qui est très différent de celui qu'il a été 7 ans plus tôt, quand il était au fait de sa gloire. Hein. Donc, on se souvient, en 2010, on avait énormément parlé de lui. Bon, là, il a l'air affaibli, amaigri, très barbu. Imagine rester 7 ans dans un petit studio, se faire virer, Il avait peur de se faire virer il avait peur de se faire extrader aux États-Unis. Alors pourquoi maintenant, après 7 ans, effectivement, c'est parce que l'Équateur l'a lâché, quoi. Les choses changent, et les gouvernements aussi, et Lénine Moreno, à la différence de son prédécesseur, il a décidé de cesser de soutenir Assange, et même de le déchoir de sa nationalité équatorienne qu'il avait obtenue à peine un an plus tôt. Alors de quoi il est accusé? Pour le moment, comme tu dis, simplement d'avoir aidé Chelsea Manning à pénétrer les serveurs du Pentagone en 2010, au moment de la plus grosse révélation de Wikileaks. Bon, ça commence à dater un peu d'ailleurs, hein, et on pourrait essayer de se souvenir de ce que c'est, de qu'est-ce qu'il a fait, qui c'est Assange et qu'est-ce qu'il a fait ces 9 dernières années. Donc Julian Assange est un Australien qui est né en 71 et qui à la base est informaticien et un activiste avec un grand H. Il a participé au lancement d'un des premiers fournisseurs de sites internet grand public en Australie, et à partir de 94, en fait, il est programmeur de logiciels libres. Il a écrit le logiciel Strobe, par exemple, qui est un scanner de port, et aussi des logiciels de chiffrement. Il a contribué au développement de PostgreSQL, il a écrit des livres aussi sur le milieu du hacking, et donc il a toujours une opinion bien arrêtée sur l'information, et comme en témoigne son activité dans le logiciel de chiffrement, hein, il estime en gros que les citoyens doivent pouvoir mieux protéger leurs informations, parce que les États, par contraste, eux, ont une grande capacité à manipuler l'information, à faire de la rétention d'information, et donc il voit ça comme une sorte d'asymétrie fondamentale, et c'est cette asymétrie fondamentale qu'il va essayer de compenser toute sa vie, quoi. Et c'est dans cette optique, d'ailleurs, qu'il va créer Wikileaks, qui est une ONG, et donc un ensemble de sites internet, de sites web, qui vont héberger des informations fournies par des lanceurs d'alerte, hein, de tous les pays. Et donc, fonder Wikileaks, c'est un acte militant, et l'idée, c'est que les citoyens ont le droit d'être informés de ce que font leurs gouvernements, quoi. Parce qu'Assange pense, et pas forcément à tort, hein, d'ailleurs, que des guerres peuvent éclater sur la base de mensonges d'État. Bon, voilà, on se souvient de l'Irak, hein. Assange place la transparence au-dessus de tout, peut-être parfois de manière un petit peu excessive, hein, voilà, comme on va le voir. Donc, parce que le site divulgue des informations de manière anonyme et sécurisée, il le fait pour protéger les sources. Par contre, malgré son nom, c'est pas Wiki, puisque n'importe qui peut pas modifier les articles
oui,
comme ça.
Oui, t'as raison, c'est pas crowdsourcé comme contenu.
Non, enfin c'est crowdsourcé, mais c'est oui, crowdsourcé avec des
sources particulières au grand public
sélectionnées, exactement. Voilà. Donc c'est en 2010 hein, que Wikileaks arrive sous le feu des projecteurs avec 91 000 documents militaires sur la guerre en Afghanistan qui sont publiés, qui sont par ailleurs relayés par tous les grands médias comme The Guardian, New York Times, Der Spiegel.
Le Monde.
Et la même année, il y a 400 000 documents secrets sur la guerre en Irak qui sont aussi publiés et là encore relayés par les journaux du monde entier. En 2011, c'est les dossiers sur les détenus de camp de Guantanamo. Donc voilà, et ça continue. Des documents par dizaines de milliers, dont certains sont susceptibles de révéler des comportements pas très glorieux de l'armée américaine, voire carrément des crimes de guerre. Donc, évidemment, il n'en fallait pas tant à Julian pour se faire tout un tas d'ennemis très haut placés. Et donc, dès la publication des infos sur l'Afghanistan, les infos de Chelsea Manning, donc, qui a par ailleurs été condamnée elle-même à 35 ans de prison, quand même, pour espionnage, les États-Unis ont commencé à enquêter sur Wikileaks et sur Assange, hein, et selon Snowden, à cette époque-là, il faisait partie déjà des personnes les plus recherchées, les plus surveillées du monde, et la NSA considérait d'ailleurs Wikileaks comme un acteur étranger malveillant, je cite. Donc, c'est là que commence l'embrouille judiciaire à Assange, parce que, comme tu l'as évoqué, hein, en 2010, il y a une enquête pour agression sexuelle en Suède, qui n'a absolument rien à voir avec Wikileaks, hein, a priori. À l'époque, Assange est en Angleterre, et le pays dit vouloir l'extrader vers la Suède, mais Assange, il panique, et il pense qu'il sera récupéré par les États-Unis. Donc, il est arrêté par les Anglais fin 2010, après avoir payé une caution, il va écoper d'un bracelet électronique, il se retrouve en liberté conditionnelle. Mais à partir de 2012, il se réfugie dans l'ambassade d'Équateur, à Londres, et l'Équateur lui accorde l'asile. Les Anglais le prennent très mal, et ils annoncent qu'il sera arrêté, la seconde où il mettra le nez dehors, du coup, il va rester 7 ans dans l'ambassade. Alors, les agressions sexuelles ont été prescrites en 2015, mais bon, il est quand même resté dans l'ambassade. Le ministre des Affaires étrangères équatorien de l'époque lui accorde le droit d'asile politique, hein, malgré les pressions du Royaume-Uni, et ça va tenir jusqu'au changement de gouvernement l'année dernière. Voilà. Parce que virer Assange de l'ambassade, ça faisait partie des promesses de campagne de Lénine Moreno, hein, qui est le nouveau président équatorien. Donc dans l'intervalle, Wikileaks, évidemment, il a continué de publier, hein, donc tu l'as dit, hein, on se souvient du rôle qu'il a eu dans l'élection de Donald Trump, en 2016. On se rappelle de la masse d'informations sur les démocrates, en particulier sur John Podesta, qui ont fuité, et ça a handicapé lourdement la candidature d'Hillary Clinton. Bon, Julian Assange est d'ailleurs publiquement prononcé contre Hillary Clinton, hein, sans réellement être aussi virulent d'ailleurs en ce qui concerne Donald Trump, ce qui a suscité beaucoup de controverses déjà à l'époque. Et bon, comme tu disais, Trump lui a pas fait de cadeau, parce que bon, Obama, effectivement, Lui, il a toujours hésité à trop forcer sur l'extradition, parce que, et surtout sur l'inculpation d'Assange, puisque comme il a été suivi par tous les grands médias, du coup, par ricochet, ben, ces derniers se seraient retrouvés ses complices. Donc les États-Unis, finalement, ils se sont retrouvés à faire le procès des grands journaux mondiaux. Ce serait un véritable casse-tête en ce qui concerne, tu vois, la liberté de la presse, ou même le Premier Amendement, quoi. Encore aujourd'hui, hein, il est accusé que de complicité avec Chelsea Manning, et ça date donc de 9 ans. Alors, donc, je sais, pour beaucoup, hein, Julian Assange est un apôtre de la liberté d'expression, son arrestation, c'est une sorte d'ingérence impérialiste des États-Unis, hein, c'est ce que pense Mediapart, par exemple, et beaucoup d'autres journaux, d'ailleurs, hein, qui considèrent Assange comme journaliste, et WikiLeaks comme un outil au service de la liberté de la presse. Et c'est certainement en partie vrai, d'ailleurs. Hein, mais bon, il faut pas oublier quand même que Assange possède aussi des côtés un petit peu plus sombres, un petit peu moins reluisants. Déjà, il a toujours refusé de se confronter à la justice pour ses agressions sexuelles. Hein, il a toujours minimisé ces trucs-là en comparaison de sa contribution à la liberté d'expression. Alors, ok, mais bon, quand même. Et ensuite, bah, il est tellement partisan de la transparence au-dessus de tout que ça peut devenir dangereux. En 2010, il a approché 5 journaux pour publier le contenu de documents militaires américains. Et les journaux, eux, ont expurgé les identités sensibles. Ouais, c'était des personnes qui pouvaient être en danger. Et bon, l'année d'après, WikiLeaks a publié tous les documents sans aucun filtre. Une action qui n'est pas forcément très responsable, quoi. Donc, c'est en plus, bon, on l'a déjà dit, son action pendant la campagne de 2016, c'est très ambivalent. Au final, on peut dire que WikiLeaks a favorisé la candidature de Trump, ce qui n'est pas un cadeau. Et ce qui, moi, effectivement, moi, personnellement, c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup refroidi sur WikiLeaks, malheureusement. Mais bon, et ça, plus, apparemment, ça s'avérait être aussi un mauvais calcul pour lui. Et voilà, enfin, en tout cas, ouais, certains médias lui reprochent aussi d'ailleurs d'être principalement anti-américain, puisqu'il s'attaque beaucoup aux États-Unis, mais il s'attaque beaucoup moins aux autres pays, en particulier les pays comme la Russie, la Chine, par exemple, qui ont jamais été inquiétés, ou d'autres régimes totalitaires. Hein, donc, et certains ont même mal pris les multiples interviews qu'il a données à Russia Today, que d'aucuns considèrent comme un outil de Vladimir Poutine. Donc, globalement, ni tout noir ni tout blanc, Assange, c'est une personnalité complexe. Donc voilà, mais bon, la seule chose qui est sûre pour le moment, c'est que son chat va bien. Puisqu'il avait un chat, des Embassy Cat.
Oui, détaille cette connu. Belle histoire dans cette
mais oui. Un chat connu sur les réseaux sociaux, c'est un chat très mignon avec une cravate. Et on se demandait en cas d'arrestation ce qui allait lui arriver. Bah, écoute, il a été récupéré par ses avocats en octobre dernier. Il paraît qu'il a même pu assister à l'arrestation de son maître en direct à la télé. C'est un peu triste.
C'est émouvant. Et de voir cette histoire de quelque part, de lolcat, pas si lol que ça, mais dans cette histoire, c'est toujours un peu déroutant. Quelques petits éléments, moi, sur lesquels je voulais juste compléter. Et je trouve que moi, j'apprends plein de choses avec ton résumé quelque part, donc c'est très cool. J'espère que les gens qui nous écoutent apprennent autant de choses. Mais je voulais revenir sur le fait que, effectivement, alors Chelsea Manning avait été graciée sur la fin de la période Obama et a été réarrêtée parce que justement, elle refusait de témoigner contre Julian Assange. Donc on sent qu'il y a encore quelque chose là-dedans de très profond. Je pense de l'ordre de la conviction. C'est compliqué de défendre un Julian Assange aujourd'hui, de par le fait qu'il ne représente pas que la noble tâche de mettre à disposition du grand public des secrets qui sont moralement problématiques. Et il y a beaucoup de choses qui sont associées, et si on doit résumer tout ce qui tourne autour de Julian Assange avec son personnage, c'est compliqué. Je pense que c'est aussi pour ça que ça cristallise beaucoup les réactions. Je sais qu'il y a des grands défenseurs qui s'indignent effectivement du fait qu'il soit arrêté tout court, du fait qu'il y ait l'ingérence des États-Unis dans d'autres pays, ce qui, il faut le reconnaître et aussi assez vrai. Et il y a d'autres personnes qui sont très critiques vis-à-vis de lui. Bah, comme tu le dis, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Et comme on le dit souvent dans tes cafés, c'est pas si simple.
Tech Camé, ça pourrait être un autre concept d'émission.
Comment?
Tech Camé, ça pourrait être un autre concept d'émission. Ça.
Tech Camé, effectivement, oui, tout à fait. Et en tout cas, et du coup, j'ai perdu ce que je voulais rebondir, mais je pense qu'on aura fait à peu près le tour sur le sujet. Si, juste un dernier détail, moi, c'est vrai que ce qui m'a sauté aux yeux aussi avec cette arrestation, je l'avoue, et j'ai fait l'association, et j'ai revu ça dans certains articles derrière, c'est son visage. Alors, c'est pas du tout tech et c'est pas du tout factuel, mais ça peut pas m'empêcher de me faire réfléchir aussi et de m'aider à progresser dans ma réflexion par rapport à Julian Assange, c'est que il est sorti de cette ambassade hirsute, quoi, avec une barbe particulièrement longue, des cheveux longs qui étaient tirés vers l'arrière, avec vraiment un côté de personne, enfin ça donnait vraiment le sentiment d'une personne qui, et c'était le cas, était isolée dans des conditions difficiles. Alors attention, hein, prenez avec des grosses pincettes ce que je vais dire, je suis pas en train de comparer Julian Assange avec Saddam Hussein, mais j'ai ce souvenir des photos qui avait circulé à l'époque de quand avait été retrouvé Saddam Hussein après sa fuite et de manière générale de visages de personnes qui sont défigurées par la captivité dans des conditions hyper difficiles. Bon, au-delà de cet aspect très 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 visuel et très subjectif, je pense que ça participe aussi de notre réflexion pour comprendre que Julian Assange n'est pas forcément non plus aussi réfléchi qu'il pouvait l'être à d'autres époques. Il a dû être affecté par cette captivité, par le temps, par il faut le dire, le bouleversement du truc, quoi. Je sais pas comment je me retrouverais, moi, si j'étais dans sa situation, et probablement avec ses visions et ses convictions. C'est toujours un peu compliqué de se mettre à sa place, mais voilà, je pense que la personnalité est complexe, le sujet est complexe, et tout ce qu'il représente est complexe, et c'est pas si simple d'être, effectivement, à fond derrière ou à fond contre. Alors, tu l'as glissé un petit peu en pré-intro dans notre discussion. Une autre controverse qu'on va aborder, c'est ce qui se passe derrière les locaux d'Alexa en back-office chez Amazon. La news est tombée, alors elle a été reprise de toutes les manières possibles. Hein. C'est pas aussi simple, là encore, ou au contraire, on vous a dit qu'on nous écoutait, c'est pour ça que je refuse d'avoir des assistants connectés chez moi. En gros, la news qui est sortie, c'est que des techniciens d'Amazon écoutent tout simplement des conversations ou des enregistrements vocaux issus de l'utilisation par le grand public des assistants connectés Alexa. De quoi s'agit-il, Guillaume ?
Eh oui, c'est l'autre grande révélation de la semaine, hein, c'est que des humains aussi écoutent ce que vous dites à Alexa. Alors vous pensez que votre voix est analysée que par des algorithmes chez Amazon, hein, bah, pas exclusivement, parce que bah, comme toutes les intelligences artificielles, Alexa fait des erreurs et doit être corrigée, et pour ça, bah, il faut bien que des humains entrent dans le processus à un moment ou à un autre. Donc ils sont des milliers, hein, dispersés à travers le monde, ils écoutent jusqu'à 9 heures d'échantillons envoyés à Alexa par jour, et ils les transcrivent. Alors jusqu'à 1000 échantillons, donc quotidiennement sont traités, et la plupart du temps, il n'y a rien de bien intéressant, hein, mais occasionnellement, ben, les petites mains ou les petites oreilles, disons, d'Amazon tombent sur des morceaux qui peuvent être amusants, bizarres, voire carrément inquiétants. Mais bon, même dans le cas où ils tomberaient sur des agressions sexuelles, hein, ils ne peuvent rien faire. Toutes les données sont totalement anonymisées, on s'en serait douté, d'ailleurs c'est même un minimum. Cela dit, Alexa peut fréquemment s'allumer par accident et donc enregistrer des données sensibles. Donc ces enregistrements-là, en fait, ils sont pas rares, pas tant que ça, puisque les allumages accidentels peuvent représenter jusqu'à 10% des données traitées en une journée, bah, ils sont censés être éliminés immédiatement, c'est-à-dire que les gens arrêtent de les écouter tout de suite. Voilà, donc il y a une petite fraction en tout de tout ce qui est envoyé à Alexa, et donc bel et bien écouté, aléatoirement, par des humains, et ça fait partie d'ailleurs des conditions générales d'utilisation. Il existe une case que vous pouvez décocher si vous voulez pas que ce soit le cas. Alors, c'est une révélation qu'a fait le journal Bloomberg, qui c'est pas vraiment une surprise, même si ça fait beaucoup de bruit. Il y a un autre article de The Intercept, d'ailleurs, qui révélait il y a peu que des humains devaient aussi manuellement identifier les voitures et les gens qui sont capturés par la caméra de surveillance d'Amazon, la caméra de surveillance connectée intelligente. Et bon, on peut imaginer très facilement que Google, par exemple, ou Apple font aussi exactement pareil pour eux aussi améliorer leurs algorithmes.
Évidemment, c'est le cas, mais quelque part, je pense que c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sociétés de services où effectivement, on peut pas laisser à l'aveugle des technologies fonctionner. Je pense que ne serait-ce que par souci de faire évoluer la technologie, y a besoin d'avoir accès à ce qui se passe concrètement, et d'un point de vue technique, ça me semble complètement normal. J'imagine que d'un point de vue contractuel, il y a des choses qui sont encadrées. Est-ce que c'est suffisant? Probablement que c'est jamais suffisant. C'est plutôt pas mal, finalement, qu'on en parle de ce sujet, mais j'avoue que j'étais pas très surpris. Ça me rappelle une controverse qui était presque plus embêtante, puisqu'il y a eu un retour arrière assez important rapidement, de la part d'Evernote, qui avait fait évoluer ses conditions générales d'utilisation, je crois que c'était il y a à peu près 2 ans, je suis pas certain, il faudrait qu'on retrouve les news, mais où ils expliquaient qu'ils consultaient explicitement, ils s'autorisaient de consulter explicitement des notes, alors avec beaucoup de bémols, hein, qui étaient de dire que ils n'allaient pas recouper les données, que c'était simplement à des fins d'amélioration de service, etc., etc. Je peux comprendre que ça pose problème. Mais quelque part, à partir du moment où on accepte d'utiliser ce type de service, je trouve ça hyper logique que des techniciens aient accès au contenu derrière et que ils soient encadrés contractuellement, évidemment. Mais pour améliorer les choses. Et après, ça garantit jamais à 100% le fait qu'il n'y aura pas des détournements ou qu'il n'y ait pas la possibilité de consulter des choses de manière involontaire. Mais quelque part, je trouvais ça un peu normal. Et je me suis demandé si c'était pas la big révélation de Bloomberg pour rattraper la mauvaise révélation de Bloomberg par rapport à l'espionnage, notamment de serveurs Apple avec des puces chinoises. Qui avait fait un peu pchit, je dois le dire, et où tout le monde est arrivé à la conclusion que c'était pas, que c'était finalement assez peu probable. Et j'ai l'impression qu'ils ont voulu se racheter une crédibilité de la dénonciation tech en dénonçant ce truc-là. Je sais pas si c'est une explication plausible. En tout cas, c'est en partie la mienne, je crois. Guillaume, tu avais identifié un autre élément de controverse qui ressort sous l'angle d'une actualité média ludique, qui est l'affaire Theranos, le scandale Theranos, qui est représenté par la personne d'Elizabeth Holmes. Ça remonte à il y a quelques temps. Tu vas nous resituer là encore de manière plus détaillée et peut-être plus précise, mais oui, grosso modo, c'est quelqu'un d'assez emblématique qui n'était pas sans évoquer Steve Jobs, ne serait-ce que par sa tenue et de par son envie d'apporter des technologies révolutionnaires pour le grand public, notamment dans le domaine médical, et ça s'est révélé être une gigantesque arnaque finalement, Guillaume.
Oui, parce que Stéphanie Jobs fait long feu, hein, je te cache pas. Donc, je suis pas sûr qu'on ait déjà parlé dans tes cafés de Theranos, hein, je pense pas. C'est une entreprise de santé fondée donc par Elizabeth Holmes, qui s'est révélée être l'un des plus gros scandales jamais vus à la Silicon Valley. Elizabeth Holmes avait 19 ans quand elle fonde Theranos en 2003. Et c'est une boîte qui développe une technologie qui permet de réaliser des tests sanguins très peu coûteux avec une méthode de prélèvement originale sans aiguille. Donc, c'est une perspective qui lui permet de lever 700 millions de dollars. Et en 2015, l'entreprise est quand même valorisé à plus de 9 milliards. Le problème, c'est que Theranos apparemment n'utilise pas sa propre technologie et que la fiabilité de tout ce qu'elle fabrique n'a jamais été prouvée scientifiquement. En fait, il fallait eux passer par des machines traditionnelles de marque Siemens, et quand ils ont finalement testé leur propre machine, les résultats étaient dramatiquement différents, donc c'était quand même un léger problème. À partir de là, les experts et les institutions américaines deviennent vraiment sceptiques, et des inspections dans les locaux de Theranos découvrent des problèmes de gestion, des problèmes d'humidité, de validation des machines, bon, c'est une cata. Et bon, c'est la descente aux enfers. En 2016, tous les tests effectués les deux années précédentes sur les machines de Theranos sont annulés, et à la fin de l'année, Elizabeth Holmes dit que l'entreprise va fermer et licencie tout le monde. Donc petit à petit, l'entreprise passe de licorne à start-up surévaluée, puis à fraude massive. En 2018, tous les dirigeants sont inculpés par la SEC, et la levée de fonds est requalifiée en escroquerie sophistiquée. Bon, le seul succès de Theranos, finalement, c'est un succès médiatique. Il y aura des centaines d'articles de presse, des livres, des documentaires, et maintenant une série télé. Alors au-delà de l'énormité de l'escroquerie, peut-être que le fait que sa présidente ait été une jolie blonde de 19 ans, une jolie blonde en tout cas jeune, a un rapport avec le succès, je sais pas. En tout cas, le scandale Theranos va devenir un show houlou, que ça va s'appeler The Dropout, avec Kate McKinnon, qui a joué dans Ghostbusters, le nouveau, dans Tête 2, dans Les Cerveaux, etc. Et cette série télé, eh bien, elle se base sur une série de podcasts documentaires du même nom. Et voilà, ça y est, les podcasts, comme les livres, peuvent désormais avoir leur adaptation sur un petit écran. J'espère qu'il y aura peut-être, un thé café un jour, va savoir.
Oui, peut-être.
À la télé.
Peut-être, va savoir. Il y aura effectivement une reproduction ou une adaptation de thé café à la télé. Oh, ce serait beau. J'ai plein d'idées. Ouais, c'est captivant, mais c'est vrai qu'il y a sans doute des choix d'histoire à raconter derrière et à dériver. Alors, des choix d'histoire à raconter, il va y en avoir aussi beaucoup à disposition sur les médias de streaming, parce qu'évidemment, on ne présente plus Netflix, et je pense que vous savez très bien ce que c'est que Netflix aujourd'hui. Mais on savait que Disney allait lancer ce qu'on présentait comme le concurrent de Netflix, parce que c'est exactement la même approche, et que on va pas retrouver les mêmes contenus dans cette plateforme de streaming de Disney, et même on va retrouver dans cette plateforme des contenus Disney qui étaient en partie à disposition sur Netflix, mais qui ont été retirés petit à petit. On en avait déjà parlé, hein, de tous ces contenus qui étaient sous licence Disney et qui étaient retirés de Netflix petit à petit, pour que justement il y ait cette exclusivité de diffusion sur la plateforme. Alors qu'est-ce que c'est cette plateforme? On a eu quelques news et une présentation. C'est donc Disney Plus, ça on avait déjà le nom, mais on a désormais une date de lancement, c'est le 12 novembre aux États-Unis pour $7 par mois. C'est quand même sensiblement moins cher que Netflix. Et qu'est-ce qu'on a pour ça? On a évidemment des contenus Disney, on a des contenus Pixar, et on a aussi ben toute la galaxie qui a été rachetée par Disney, notamment pour les plus emblématiques, Marvel et Star Wars. On a un concurrent sérieux pour Netflix qui arrive. Comment tu vois arriver ce Disney+, Guillaume?
Bah déjà, moi, je vois que Disney+ arrive avec l'exclusivité sur les Simpsons.
Ah, j'attendais effectivement que tu nous fasses part de ton petit chouchou.
Mais oui, mais 30 saisons, ils ont les 30 saisons et toutes celles qui viendront, puisque désormais Disney possède la 21st Century Fox, qui ils ont racheté l'an dernier pour, j'ai découvert, la modique somme de 71 milliards de dollars.
Ah, il semblait qu'on avait parlé de ce rachat.
On avait parlé de ça, oui, peut-être, mais j'avais plus le chiffre en tête.
Et c'est vrai que j'avais plus le chiffre en tête.
C'était tellement énorme que j'avais zappé.
On en rénove des donc, Notre-Dame avec ça.
Ouais, ben ça, je pense que ça devrait aller. Oui, pour faire un don d'ailleurs, ouais, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Et donc le deal à $7 inclut ESPN+, donc du sport, et Hulu d'ailleurs aussi, donc ils pourront regarder la saga Terranos. Et bon, c'est vrai, encore un, donc encore un service de streaming, hein, ça commence à faire beaucoup. Pourtant, Reed Hastings, le PDG de Netflix, il est pas trop inquiet. Il faut dire qu'il a gagné 10 millions d'utilisateurs supplémentaires rien que le dernier trimestre, donc ça donne confiance, et surtout que la majorité de la croissance vient de l'international. Donc désormais, Netflix, c'est 148 millions d'abonnés, ce qui est vraiment très significatif. Alors, pour le moment, Netflix est excité à l'idée d'avoir ce nouveau compétiteur. Mais bon, faut pas oublier que Netflix va augmenter ses prix un petit peu partout. Il les a augmentés déjà de 1 ou 2 euros par mois en Allemagne et en Autriche. Et à peu près dans tous les autres pays, ça va venir. Donc ça veut dire que Netflix va se positionner quand même nettement plus cher que Disney, qui se positionne lui vraiment de manière très compétitive. Comme tu l'as dit, ça pourrait ne pas être aussi simple que ça.
On n'a pas encore la même variété, hein. J'ai l'impression que l'offre de Disney est premium intéressante et va forcément intéresser énormément de monde. On n'est pas sur la même diversité que Netflix. Et d'ailleurs, Netflix s'est positionné par rapport à ses annonces. Bon, est-ce qu'ils peuvent vraiment faire autre chose? Je sais pas. Mais en tout cas, ils se sont positionnés en disant « Non, mais c'est très bien, en fait, qu'il y ait Disney qui arrive avec un service, que Apple aussi débarque avec un service de diffusion de contenu en streaming. » ils disent, et finalement, je suis assez d'accord que cette compétitivité sera bénéfique pour le consommateur. Et je crois que s'il y a bien une manière idéale d'éviter qu'il y ait une surenchère de prix de la part de Netflix, c'est qu'il ait des concurrents sérieux. Et je souhaite effectivement qu'il y ait des acteurs qui soient tous aussi crédibles que Disney pour faire de l'ombre peut-être à Netflix. Est-ce que ça fait vraiment de l'ombre? Je sais pas. Je sais pas si on est dans les mêmes typologies de consommateurs. Je pense qu'il y a une bonne partie qui se recoupe. Mais peut-être pas tous. Ça va être compliqué quand même de cumuler les abonnements à $10 par mois en moyenne pour tout le monde. Est-ce que ça va être le retour du piratage ou un plafonnement des prix ou voire même peut-être des diminutions de prix sur ce type de service? Je sais pas. Est-ce que tu crois que le piratage peut revenir en force devant cette avalanche de services payants, Guillaume?
Oui, probablement. Disons que moi, j'ai pas un peu l'impression. Oui. Non, mais écoute, il va y avoir quoi? Apple, Disney, Netflix. Il va y avoir, d'autres. Hein, ouais. Il y en a d'ailleurs probablement que j'oublie. S'il faut avoir 6 abonnements pour pouvoir voir les séries qui t'intéressent, ouais. Ben non, en fait, hein, tu vas en avoir un, voire deux, et puis le reste, tu vas le télécharger. Point barre. Donc moi, je le vois un peu plus. Je le vois plutôt comme ça. Mais bon, on verra bien.
On a la force pour nous que ces services ne sont pas engagement. Donc c'est-à-dire qu'on peut résilier quand on veut. Je serais pas surpris d'ici quelques temps, pas tout de suite évidemment, hein, mais d'avoir des services tiers que vous payez de la même somme tous les mois, et eux, ils vous disent, bah tiens, tel mois, je te recommande de t'abonner à ça et ça, parce que par rapport à tes goûts, je te recommande de t'abonner par exemple à Netflix parce qu'il y a telle série que t'adores qui va ressortir et tel autre contenu, et le mois d'après je switch et ça va te résilier automatiquement et ça va t'abonner à Disney parce qu'il y a tel et tel truc qui est sur Disney qui va te plaire. Tu vois, je sais pas.
Oui, vive les tableaux Excel d'abonnement de streaming. Bon, écoute, je sais pas, on verra, mais c'est marrant.
Pour être exhaustif, juste un mot pour dire que j'ai cherché pendant qu'on en parlait. Disney a annoncé aussi donner 5 millions de dollars pour reconstruire Notre-Dame. Donc tu vois, on était assez juste dans notre vision. Allez, un dernier petit mot pour finir de verser dans la controverse avant de s'orienter vers des news peut-être plus réjouissantes et plus excitantes. C'est la directive sur le droit d'auteur, on l'avait déjà dit, hein, qui était en passe d'être complètement validée en Europe. Bon là, ça y est, hein, c'est complètement fait de fait. Le vote ultime, bon, sur lequel il y avait strictement aucune surprise a eu lieu le 15 avril. Et vous pouvez réécouter les précédents épisodes de Tech Café si vous voulez un petit peu plus de détails sur ces directives et ce qui risque de s'appliquer en France. Je sais pas d'ailleurs si tout sera facile à appréhender vraiment de manière concrète, puisque l'application de ces textes de loi me paraît quand même très compliquée. Mais voilà, les prochaines étapes maintenant, c'est en mai pour les premières discussions au Parlement, à l'Assemblée nationale, sur la transposition de la version française. On en reparlera, j'en suis sûr. Sans attendre, on va maintenant parler de choses peut-être un petit peu moins sujettes à la controverse et des choses, allez, un peu plus enthousiasmantes. On refait le lien directement avec ce qu'on venait de dire sur Disney, puisque on a eu là des présentations, alors pas surtout Disney, mais spécifiquement sur Star Wars. C'est la bonne époque pour voir fleurir tous les contenus Star Wars auxquels on va avoir droit dans les mois à venir. Fais-nous le tour de tous ces contenus excitants, Guillaume.
Oui, jusqu'au 15 avril à Chicago, c'était la célébration Star Wars. C'est une grande messe de fans de la licence qui intervient à chaque lancement d'un nouveau film, donc ça fait depuis 13 ans. Je pense que ça s'est un petit peu accéléré ces derniers temps, Disney oblige. Donc bon, il y avait plein d'annonces, au centre desquelles, bien sûr, on a vu la bande-annonce du prochain épisode 9, The Rise of Skywalker, avec à nouveau J.J. Abrams aux manettes d'ailleurs. Et donc au niveau de toute la bande d'arrêt, il y a Lando, il y a un nouveau robot mignon qui ressemble à un sèche-cheveux. Et un message qui m'inquiète un petit peu à la fin, qui dit « Personne ne disparaît vraiment ». Donc voilà, ce qui est très pratique pour les scénaristes, il faut bien l'avouer.
C'est clair. Tu mets ce que tu veux voilà, derrière,
ouais. Ben, c'est ça. Donc c'est prévu pour le 18 décembre. Je suppose que tu as vu ça, évidemment.
Évidemment. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je l'ai vu hier, d'ailleurs, mais la bande-annonce. Mais ouais. Alors, je fais partie de ces gens qui sont très bon public, bon, de manière générale, au cinéma, sur les contenus. Il est rarissime que je ne sois pas au moins content d'avoir vu un film. Et donc là, je me réjouis de voir Star Wars, d'autant plus que je fais partie des gens qui apprécient les Star Wars, y compris les derniers. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très, très critiques. Moi, j'ai accepté, je fais preuve de sagesse, hein, et de maturité, et de recul sur tout ça, j'ai accepté que les Star Wars historiques font partie du passé. Ils font encore partie du présent pour ceux qui veulent continuer à les voir ou à les revoir, mais que désormais c'est des choses de nouvelles. Et finalement, j'ai plutôt pris le parti de me dire que tout ce qu'on allait avoir, ça allait être du plus. Donc évidemment, on peut être critique, il y aura sans doute des choses bien, des choses moins bien, il y a des choses catastrophiques et des choses complètement géniales, mais je suis plutôt globalement très excité par tout ce qui va se passer. Alors justement, le film n'est pas le seul élément Star Wars auquel on va avoir droit dans les mois à venir, Guillaume.
Non, bien sûr, Star Wars renforce aussi son offre TV, on en parlait avec The Mandalorian, donc la première série live Star Wars. Et puis, il y aura aussi des épisodes, de nouveaux épisodes de Clone Wars. Tandis que Mandalorian donc, se situe entre les épisodes 6 et 7. Et c'est Jon Favreau qui va être donc aux commandes de ça. Gros réalisateur quand même. Bon, il y a aussi des jeux. Il y a eu deux jeux. Il y a eu Star Wars Jedi Fallen Order de Respawn. Donc, on reconnaît la patte. On reconnaît bien la patte puisqu'un passage du trailer montre une mécanique de Titanfall, mais vraiment telle quelle, quoi. Et donc c'est prévu sur console de salon, donc c'est un jeu mono-joueur avec une promesse de gros combat au sabre, ce qui fait toujours plaisir, effectivement. Et puis plus original, on a suivi Vader Immortal, qui est un jeu Star Wars en VR.
Vraiment, ça a l'air d'être un film interactif VR convaincant, comme j'en ai pas vu beaucoup en vidéo, moi, mais...
Ah bah écoute, je suis content, c'est impressionnant que tu dis ça, parce que c'est quand même prévu sur l'Oculus Quest et sur l'Oculus Rift, donc c'est d'ailleurs l'Oculus Quest, qu'on doit d'ailleurs considérer comme la première console de jeu VR, tout un an quoi, hein, c'est vraiment, il arrive bientôt, puisque d'ailleurs le Facebook F8 c'est du 30 au 1er mai, et qu'il est probable que le Quest sorte aux alentours de ça quoi. Mm. Et donc le line-up du Quest d'ailleurs s'enrichit, après les classiques et très populaires Superhot et Beat Saber, on aura aussi Rec Room, Apex Construct et Robo Recall, qui sont quand même des jeux graphiquement assez lourds, hein, donc je suis assez impressionné qu'ils aient réussi à porter en particulier Robo Recall sur Quest, parce que c'était pas gagné
on
du tout.
On rappelle que Quest, donc, c'est le casque qui est promis sans fil, hein, donc...
Oui, on rappelle bien sûr, c'est le casque de réalité virtuelle sans fil, tout en un, donc il n'y a pas besoin de capteur externe, il y aura donc des manettes intégrées, tout ça, et tout ça sera donc propulsé par une petite puce Snapdragon 845, c'est-à-dire globalement le haut de gamme d'un téléphone mobile d'il y a 2 ans, ce qui est quand même assez fort, parce que bon voilà, ça fait une puissance qui est correcte quoi, qui est pas nulle, mais c'est très loin, très très loin d'une PlayStation 4. Ouais. Donc faire Apex Construct par exemple en VR comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc c'est assez intéressant.
Ça doit chauffer le front que le diable si ça se trouve.
Écoute, peut-être, mais en tout cas, voilà, c'est impressionnant. Donc, il y a eu Valor Immortal aussi, qui a l'air très, très, très prometteur. Il y a Space Pirate Trainer, il y a Dead and Buried, Journey of the Gods, Dance Central. Donc, voilà, il y a même l'application de Google. Ah, j'ai oublié. L'application Google pour faire des dessins en trois dimensions, Sketch.
On l'avait vu en présentation, notamment sur ses caractères, pas multijoueurs, mais coopératifs, c'est ça. En fait, tu faisais des trucs en live et d'autres le voyaient aussi.
Tu peux dessiner un petit peu comme tu veux en 3D et ça permet de tourner autour de ton dessin. C'est vrai que comme il n'y a pas de fil, ça peut vraiment être très 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 bien adapté au Quest. Il y a aussi ce genre de choses sur le PSVR par exemple, mais le fait que tu sois sur une petite surface et que tu aies des fils de partout, enfin, c'est beaucoup beaucoup moins, ça restreint pas mal quand même la liberté de création. Là tu peux dessiner un truc au milieu de la pièce et tourner autour et sans aucun souci quoi. Bref, donc il y a quand même des bons jeux, il y aura des bons jeux pas anecdotiques et en plus il y aura du cross-buy aussi avec l'Oculus Rift, donc le casque PC, puisque Oculus veut créer le maximum de ponts entre les deux plateforme, donc voilà, je sais pas est-ce que tu vois un avenir toi cette console VR, puisque c'est vraiment ça en fait, c'est une console de jeux vidéo.
Moi j'en ai longtemps parlé, hein. À chaque fois qu'on en a parlé de VR, j'ai montré mon scepticisme et ma distanciation. Alors je suis pas un gros consommateur de jeux vidéo, j'ai la possibilité de jouer sur Nintendo avec la Switch, mais c'est vraiment pas une grosse partie de mon temps et je consomme pas énormément de jeux vidéo. J'ai pas eu l'occasion de consulter beaucoup des jeux qui sont sur les consoles dernière génération, les PS4, les Xbox, mais c'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup et je confesse que j'ai pas beaucoup le temps. Mais quand j'ai vu toutes ces news autour de ce casque qui me paraît être hyper facile à adopter parce que justement il n'y a pas tout ce qu'on décrit comme étant le problème des câbles et des fatras de fils qui entourent l'expérience de jeu, ça a l'air d'être relativement user friendly. Et quand on voit, si c'est à la hauteur des images évidemment, les vidéos d'expérience de jeu qui sont proposées, c'est quand même hyper excitant. Et j'avoue que le Vader Immortal là qui a été présenté, qui est, si je dis pas de bêtises, hein, une expérience où en gros Vader t'emmène dans sa base secrète là sur la planète en fusion, enfin de l'avant fusion, et il y a l'air d'y avoir quelque chose de l'ordre de l'exploration dans un environnement très très cinématographique. Je sais pas si c'est le cas de tous les jeux VR. Moi ça m'a vraiment intéressé et je serais très curieux de le tester un jour effectivement. Alors, on reste dans les jeux vidéo et peut-être dans les choses tout aussi excitantes puisque la PS4 va forcément tôt ou tard laisser place à un successeur. Et alors, évidemment, il n'y a pas eu de présentation de la PlayStation 5. Quoique, on a eu l'interview de Marc Cerny. Tu vas nous rappeler qui est cette personne qui est évidemment étroitement liée au développement des consoles chez Sony, mais desquelles on a pu glaner plein de petits éléments qui, s'ils se révèlent, peuvent être assez intéressants. De quoi s'agit-il, Guillaume ?
Oui, tout à fait. Marc Cerny, donc, qui est le lead designer technique de la PlayStation 4 et je crois aussi la PlayStation Vita, qui est donc devenu globalement monsieur console, le designer des consoles chez Sony. Il a donné une interview à Wired sur la PS5. C'est donc tout est tout à fait officiel. Ce sont des infos, des vraies infos officielles.
C'est pas des rumeurs.
Les premières vraies infos officielles sur la prochaine génération. Et donc, cette génération qui sera donc pas cette année, mais qu'on attend plutôt fin 2020. Et ben c'est quand même du lourd, parce que, sans surprise, hein, Cerny conçoit la PS5 sur une base qui est similaire à la PS4, avec laquelle d'ailleurs elle sera rétrocompatible, et elle aura bien un lecteur physique, elle.
Ça c'est cool déjà, la rétrocompatibilité au passage, hein, parce que quand tu
c'est déjà très cool, effectivement,
jeu qu'il y a sur la PS4, c'est incroyable.
Ben tout à fait, et du coup, bon, c'est comme on s'y attendait, ce sera une base AMD, donc une base AMD en 7 nanomètres, hein, qui est donc la finesse de gravure actuelle. On aura 8 cœurs Ryzen de 3ème génération, donc ça, effectivement, là aujourd'hui on a aussi 8 cœurs sur une PlayStation 4, mais c'est 8 cœurs pas très 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 puissants en fait, hein. Les cœurs Ryzen sont beaucoup plus puissants chacun, ils sont probablement cadencés beaucoup plus haut, donc on aura quand même un bump en CPU, et surtout on aura une puce graphique de type Navy qui sera customisée, modifiée pour Sony, et c'est officiel, elle supportera l'accélération du ray tracing exactement comme le fait la GeForce 2080. Donc voilà, donc je rappelle, c'est une nouvelle manière plus réaliste de rendre les scènes en 3D, et c'est appelé à se démocratiser puisqu'une console de salon va supporter ces nouveaux algorithmes de rendu, enfin nouveau en temps réel, hein, parce qu'évidemment c'est utilisé dans l'industrie cinématographique depuis 40 ans, mais bon, là pour l'instant c'est évidemment pour les jeux vidéo, c'est très très nouveau encore. Et donc ce sera finalement démocratisé assez rapidement, hein, donc la cible de base bien sûr ce sera du 4K. La machine sera compatible 8K, mais peut-être via upscaling. Je pense que ce sera du gaspillage de calculer vraiment de la 8K.
Oui.
De toute façon, qui aura des télé 8K même en 2020, c'est vraiment pas très clair. Au chapitre des nouveautés, la console intégrera une puce spécialisée dans l'audio 3D. Donc tous les jeux pourront avoir un environnement sonore mieux spatialisé, et ce sans manger la puissance du processeur central, parce que évidemment ça, bah, ça consomme quand même pas mal de spatialiser du son.
Alors ça, c'est,
toutes les pistes sonores.
Ça c'est comme les écrans 8K, il faut voir l'équipement audio qui va avec, parce que sinon...
Oh, bah, il suffira d'avoir un casque adapté.
Ah d'accord.
En fait,
hein.
Okay. Oui, c'est-à-dire évidemment tu pourras avoir... si tu as un bon setup home cinéma, tu pourras en profiter, ouais. Mais il faut vraiment avoir un setup home cinéma très très sophistiqué. Par contre, tu peux très bien avoir, ça peut très bien être compatible avec des casques,
okay,
certifiés, donc les casques Sony qui seront certifiés ou d'autres.
D'accord.
Donc c'est vraiment, c'est quand même intéressant. Évidemment, c'est on sera sans doute très utile aussi en VR. Alors, ce qui a excité, disons, pendant l'interview le plus Cerny et moi-même,
d'ailleurs, moi, qui suis pas un gros joueur, mais quand même, je trouve ça assez génial.
C'est sans doute ce qu'on n'aura plus à subir déjà les interminables temps de chargement
bien.
Des gros jeux PlayStation 4, puisque c'est l'arrivée du SSD de série sur les consoles. Et en fait, c'est pas juste le SSD, ouais, qu'on peut déjà en installer un sur sa PS4. Hein.
Parce qu'il fait déjà du bien quand même, normalement, un SSD. Alors sans doute que pour les jeux, c'est pas si bluffant que ça. Pour l'usage bureautique du quotidien, quand tu mets un SSD à la place d'un disque dur, en général, tu gagnes beaucoup, beaucoup de temps. Mais là, c'est sans commune mesure, ce qu'il décrit.
Oui, c'est ça comme une mesure, parce que oui, disons que sur une console, on gagne un petit peu moins de temps, parce que sur une console, on a souvent des accès qui sont séquentiels, ou quasi séquentiels, alors que sur un PC, en bureautique, on a plutôt des accès aléatoires, mmh. Donc on n'est pas exactement sur les mêmes trucs, sur les mêmes... mais bon, dans les deux cas, évidemment, ça va plus vite, effectivement, avec un SSD, vous voyez beaucoup plus vite, mais là, c'est vrai que c'est quand même sans commune mesure, puisque les performances des kits du kit de dev actuel, donc qui offre des performances qui sont un petit peu inférieures à la machine finale, donc la PlayStation 5 pour le moment, bah ça montre quand même une véritable révolution, puisque une téléportation sur Spider-Man prend 15 secondes sur une PlayStation 4 et 0,8 secondes sur un kit PS5. Donc ça veut dire que tu peux rendre les temps de chargement de Red Dead 2 humainement supportables, ce qui est déjà sympa. Et puis tu peux aussi changer les jeux eux-mêmes, parce que la vitesse à laquelle tu peux te déplacer dans un jeu vidéo, elle est forcément limitée par le débit du disque dur. En tout cas, voilà, tu peux pas te déplacer plus vite que le monde ne peut se charger, quoi. Et du coup, avec le SSD, le SSD de l'espace, hein, de la PlayStation 5, on pourrait se déplacer en avion de chasse dans un monde ouvert, là où un déplacement à cheval, ça mettrait déjà une PlayStation 4 à genoux, quoi, tu vois. Tout simplement parce que les données seraient moins loin, en fait, ce qui ouvre des perspectives. Donc, alors, quant à savoir comment Sony arrive à de telles performances, c'est pas clair, parce que je pense que changer ton disque dur PS4 pour un SSD, ça va diviser le temps de chargement, oui, mais pas par 20, quand même, comme c'est le cas, là, quand même, sur la PlayStation 5. Donc bon, elle comporte apparemment un SSD vraiment vénère.
Mais c'est pas lié que au SSD, si j'ai pas trop interprété n'importe comment les articles, c'est qu'il y a aussi la manière dont on va lire les infos et dont on va écrire sur SSD. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la technologie en tant que telle SSD, mais il y a la manière dont il est intégré à la machine qui fait que ça participe énormément à l'accélération des temps de chargement.
Alors, tu veux dire l'interfaçage, oui. Alors ce sera peut-être du PCI, une version PCI supérieure, PCI Express 4 ou un truc comme ça. Très probablement, il y aura très probablement de très très gros bus pour accompagner des SSD très très puissants. Ouais. Alors on ne sait pas quelle taille aura ce SSD ni son prix, parce que bon voilà, une console avec 1 ou 2 teraoctets de SSD, ça risque d'être un poil cher, même en 2020. D'ailleurs. Pour tout ce que Marc Cerny n'a pas dit, il reste les fuites. C'est ce qu'il y a quand même des fuites. Alors, parce que GamesRadar a exhumé un gros fichier de Pastebin, qui parle d'une PlayStation 5 qui serait programmée pour mars ou novembre 2020, à un prix de $500. Alors, c'est plus cher que la PS4, hein, son lancement, mais bon, étant donné qu'on table sur une console qui aurait 24 ou 28 gigaoctets de RAM, 2 teraoctets de stockage et 14 teraflops de puissance avec ray tracing. Ça fait quand même beaucoup. Donc $500, c'est pas complètement déconnant comme estimation, quoi.
Et puis c'est des prix de lancement aussi. Après.
C'est des prix de lancement, bien sûr, oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne le PSVR, évidemment, Cerny n'en a pas parlé. Alors, la PlayStation 5 serait rétrocompatible avec le PSVR première génération, mais il y aurait un PSVR 2 qui travaillerait dessus.
Ça semblerait logique, de toute façon.
Ça semblerait logique parce que ça n'a pas si mal marché que ça, le PSVR. Hein, pour un tout début, ça n'a pas si mal marché que ça. Donc, il serait à $250 un petit peu plus tard. Lui, il serait sans fil. Et il aurait surtout du eye tracking. Donc la PS5 serait équipée du rendu fovéal, donc pour évidemment pour pouvoir rendre des Enfin, j'en ai déjà parlé plein de fois, j'ai pas encore
c'est
parlé,
la zone sur laquelle ton œil s'arrête,
pour rendre, voilà,
qui est mieux
exactement.
Calculé, enfin qui est mieux défini plutôt que le reste, qui est un peu moins.
Exactement, c'est voilà, on ne rend que le champ de vision qui est le plus précis, quoi, et le reste on le rend de manière un petit peu moins précise, donc ça économise du temps de calcul, donc ce serait tout bénef pour le niveau de détail. L'autonomie serait de 5 heures et le champ de vision serait de 220 degrés, ce qui me semble totalement fantaisiste, hein, puisque le champ de vision humain est de 180. Je pense que c'est une erreur, et donc ça veut dire qu'il faut quand même prendre avec des pincettes un petit peu ce genre de truc.
Oui, ça fait beaucoup.
Alors, la résolution serait de 2560 par 1440. Alors, on ne sait pas si c'est pour les deux yeux ou pareil.
Ah oui.
Alors, si c'est pour les deux yeux, c'est peu ça. Parce que si le champ de vision est large, les pixels vont être d'autant plus gros. Ouais. Et donc, du coup, une résolution qui est finalement que du. C'est du quad HD, alors que normalement ce serait plutôt de résolution 4K si on a vraiment un champ de vision qui est très large, comme le laisserait supposer sur le truc. Bon. Ce qui doit nous inciter à prendre les rumeurs avec la plus grande prudence, c'est que bon, les jeux exclusifs qu'elle détaille sont quand même un peu bon. Parce que Sony essaierait de rendre GTA 6 exclu PS5 en 2020. Bon, Red Dead 2 vient de sortir, pour ainsi dire, hein, donc c'est quand même pas évident. Sinon, évidemment, on retrouve les Usual Suspects, un Gran Turismo 7 avec VR. Il y aura aussi des jeux cross-platform, cross-génération, pardon. Et il y aura aussi des remasterisations de Last of Us 2 et Tsushima en PS5, en format PS5. Et bien sûr, il y aura un Horizon 2, bon, ce qui n'est pas une très grosse nouvelle. Voilà, enfin bon, quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir quelques démos d'exclusivité PS5. Hein. Malheureusement, pour ça, il va falloir attendre l'eCube 2020, je suppose, et donc ça va faire long.
Mais c'est chouette de voir ce développement. Il y a quelque chose aussi qu'a précisé Marc Cerny, qui a mis en perspective d'autres éléments d'actu, c'est il a précisé que la console ne serait pas des maths à 100%, donc il y aura toujours un support physique pour la PS5, bon, qui reste toujours peut-être parfois un peu symbolique, parce que quand on voit la taille des téléchargements de mise à jour qu'il faut faire pour commencer à jouer une fois que t'as récupéré, que t'as mis la galette dans la console, c'est quand même assez déroutant parfois. Mais je fais une petite parenthèse, j'anticipe un petit peu les news, puisqu'on va vous reparler dans la partie en bref de la Xbox All Digital qui a été présentée et qui n'a plus de lecteur Blu-ray. Elle, on en reparle tout à l'heure, donc il faut écouter encore l'épisode jusqu'à la fin. On continue avec des annonces toujours peut-être excitantes, mais quand même, moi je trouve que là, ce sont des annonces qui me font parfois presque sourire sur le design. En tout cas, c'est des news du côté d'Acer, Guillaume.
Oui, c'est vrai qu'on parle assez peu d'Acer finalement, mais là il y a eu un événement
Acer à quelque chose.
Qui va présenter. Acer à quelque chose, absolument, tout à fait. Et donc, oui, Acer a présenté sa nouvelle gamme, une nouvelle ligne de produits qui s'appelle Concept D, et qui a pour particularité d'être très puissante et très chère. Donc c'est une gamme vraiment de pro, pour les pros. Alors il y a un petit peu de tout, donc il y a deux grosses stations de travail. Une moche et une rigolote, donc la moche est toute noire, et dedans il y a des quattro, il y a des trucs vraiment extrêmement puissants, je vais pas faire le détail, mais disons qu'il y a un effort sur le design, vraiment, en particulier sur le desktop blanc, là, où il y a du bois sur le dessus, une coque blanche, bon voilà, c'est assez joli. Il y a des écrans de très haute performance, il y a des... Il y a une nouvelle gamme de laptops un petit peu. Alors le truc c'est que tout ça c'est vraiment très cher en fait, puisque globalement il n'y a rien au-dessous de 2000$, même les entrées de gamme. On a des choses pour les professionnels et pour les créatifs, donc par exemple on a un laptop où l'écran est sur des béquilles et peut s'orienter, voilà, il peut se mettre à plat par-dessus le clavier, il peut s'orienter un petit peu comme ce qu'on a vu chez Microsoft, hein, tout simplement.
Ça fait un peu clunky quand même, hein, quand on voit les images, ça fait pas, c'est pas les expériences de matériel auxquelles on a été habitué de la part de l'ensemble des constructeurs. Je pense franchement pas qu'à Apple, mais on est plutôt dans des produits qui sont hyper bien intégrés. On voit souvent ce type de design de produits dans les salons d'électronique grand public, les CIS et compagnie, où on voit des machines un peu bizarroïdes. Là, ça paraît bizarre aussi avec ces charnières, là. Mais bon, bah, pourquoi pas.
Bon, écoute, pourquoi pas. Il y avait aussi un casque de réalité virtuelle, donc c'est le Ojo. Alors, le Ojo, c'est un nouvel Ojo, en fait, qui est 4K. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une résolution combinée de 4320 par 2160. Donc c'est une résolution qui est 4K pour les deux yeux, hein, pas pareil, et qui est quand même à 90 Hz. C'est un casque qui est assez marrant parce que il est assez futuriste, il a une tête assez futuriste avec ce blanc et ses ongles, c'est assez joli. Bon, voilà, c'est une nouvelle, je sais pas, Acer voulait quand même se démarquer, donc il a choisi de te donner dans le blanc avec des lignes un petit peu futuristes et des choses un petit peu originales, et en particulier on pourrait finir sur le Helios 700. Qui est un truc que j'ai jamais vu. C'est un énorme notebook, alors c'est un énorme donc ordinateur portable de gaming, donc évidemment il est quand même assez gros, il est très très puissant, vous pouvez choisir entre 2070 et une 2080, donc de Nvidia à l'intérieur, ce qui est quand même vraiment impressionnant. Et le plus rigolo quand même, c'est que il a un clavier donc qui se coulisse. Alors pourquoi faire ? Oui, c'est une très bonne question. Pourquoi est-ce qu'on voudrait coulisser un clavier ? Eh bien, l'avant donc coulisse est créé en repose-poignet, quand vous devez taper, et en plus ça dégage une zone ça dégage une zone évidemment sur l'ordinateur, sur lequel vous avez des évents, des haut-parleurs et des évents, et ça permet de rafraîchir mieux l'ordinateur. Donc l'ordinateur est mieux ventilé si vous faites ça, et vous avez en bonus, on va dire, un repose-poignet. Bon, ça fait un petit peu gadget, mais c'est assez rigolo. Ce serait beaucoup plus rigolo si c'était pas aussi cher, malheureusement, puisque là encore, ça commence à 2700$. Bon, bah écoute, tant pis.
L'argument du truc pro et donc plus cher fonctionne toujours aussi bien. Bon, bien que là, si je comprends bien, il y a aussi l'explication sur le plan matériel, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vendre un truc cher simplement pour qu'il soit cher, mais il y a vraiment du contenu matériel derrière.
Mais sur les portables gaming, on aura vraiment tout vu. Hein. Je sais pas si tu te souviens, à chaque fois qu'on a un Computex, ouais, ou un truc comme ça, on a forcément plein de trucs, et ça continue, on a toujours des ordinateurs gaming avec des trucs originaux, c'est pour ça que je les relais, parce qu'à chaque fois c'est un peu différent effectivement de l'ordinateur moyen, quoi.
Ça promet, je suis sûr qu'ils vont encore être très très inventifs et qu'on va avoir encore plein de choses à voir. Tu voulais nous parler aussi du salon et d'un ensemble de conférences. Alors ça, c'est ton petit cheval de bataille aussi, hein, sur la VR et la réalité augmentée. Ça s'appelle le Laval Virtual, et donc là c'est l'édition 2019. Je suis pas certain qu'on en ait déjà relayé des éditions dans Tech Café, Guillaume. Qu'est-ce qui s'est passé de marquant dans ce salon ? Qu'est-ce qu'on peut relayer ?
Oui, c'était du 20 au 23 mars à Laval, donc le Laval Virtual. C'était 300 exposants quand même, en particulier des pros finalement, beaucoup beaucoup de pros sur la VR, effectivement, la réalité augmentée, et on a vu des choses connues, des choses moins connues. Bon, on peut essayer de résumer un petit peu. Il y a eu des choses intéressantes, comme par exemple des nouvelles interfaces haptiques, donc des gants. Il y a eu des gants haptiques qui permettent donc de ressentir les choses qui sont en réalité virtuelle.
Espèce de vibreur vachement avancé, hein, si vous n'avez pas en tête ce que c'est qu'un vibreur.
Oui, c'est même plus que ça, en fait, puisque là, c'est carrément un robot dans lequel vous mettez la main, et ce robot, il force sur vos doigts en fonction de ce que vous touchez. Donc ça permet par exemple de sentir une boule que vous choisissez en réalité virtuelle ou autre chose. Ça permet de sentir aussi les matières avec les vibrations, etc. Donc ça permet un retour haptique mais vraiment de génération supérieure, quoi. Donc il y a Manus VR ou Sense Glove par exemple qui font ce genre de truc. Et puis il y a des itérations de choses connues, comme par exemple les Virtualized, le Elite, la deuxième version du Elite de Cyberit. Alors Cyberit, c'est quoi ? C'est un tapis roulant pour la VR, donc vous avez peut-être déjà vu, si il y en a dans certains. Dans certaines salles d'arcade VR, je veux dire, c'est pour les professionnels, hein. c'est des tapis roulants qui vous permettent de marcher, comme si vous marchiez normalement, quoi, mais en VR. Et ce qui est intéressant, c'est que globalement, c'est des tapis roulants où vous êtes retenu par une espèce d'arceau, alors que le Elite 2, lui, par contre, c'est un tapis roulant qui peut se pencher. Donc vous pouvez, en fait, quand vous avancez, vous n'avez plus besoin vraiment d'être retenu, puisque l'orientation du tapis s'adapte, quoi. Donc c'est assez marrant, ça marche pas mal. Il y avait des choses relativement, un petit peu différentes, mais relativement connexes, comme par exemple des solutions pour partager des expériences virtuelles, mais sans casque. C'est par exemple Dual Eye Point. Dual Eye Point, c'est l'extension de ce qu'on appelle les caves, c'est-à-dire vous entrez dans une salle et vous avez des projecteurs, donc ils projettent des images de très très grand format, de très très haute résolution en 3D, et vous avez des lunettes et vous pouvez interagir avec cette image en 3 dimensions, mais voilà, vous étiez le seul à la voir. Et donc il y a des progrès qui sont faits là-dessus, puisque maintenant les projecteurs peuvent envoyer de la 4K à 240 Hz. Donc ça permet d'avoir 2 fois 120 Hz et 2 fois 120 Hz, ça veut dire que vous pouvez avoir envoyer en fait 4 images en une sur le mur. C'est-à-dire sur le mur, vous envoyez d'abord l'image gauche de la première personne, puis l'image droite de la première personne, puis l'image gauche de la deuxième personne, puis l'image droite de la deuxième personne. Et du coup, ça permet d'envoyer donc ces 4 images et d'adapter en fonction de la position des lunettes 3D, donc ces lunettes LCD, ça permet d'adapter l'image pour chacun. Donc ça dépend où se place chacun des trucs. Bah, chacun voit ce qu'il doit voir. En fait, l'image s'adapte à chacun des points de vue. Donc on peut être deux dans la même image virtuelle, comme ça, à interagir. Donc c'est assez intéressant pour les professionnels, pour le prototypage, pour partager des designs, etc. Donc ça, c'était une tendance. Et il y a une grosse tendance aussi qu'on a vue, c'est la généralisation, et on en a parlé d'ailleurs pour la PS5, du suivi de regard, donc le eye tracking. C'est quelque chose qui est devenu extrêmement, qui est devenu presque un passage obligé, que ce soit pour alléger les calculs par le rendu fovéal, ou tout simplement pour servir d'interface en réalité virtuelle, c'est-à-dire vous regardez quelque part et vous suffit ensuite d'interagir direct. Vous pouvez interagir directement avec les yeux, quoi. Et d'ailleurs, il y avait des casques, alors on a revu le casque Varjo dont j'ai parlé là, donc dont j'ai déjà parlé, qui parce que le casque a la particularité d'avoir deux écrans, un écran grand qui prend tout le champ de vision et qui a une résolution standard, et un écran qui est 1080p mais qui est tout petit et qui se concentre sur votre sur la région fovéale, la région de la rétine, où la rétine est la plus précise. Et donc dans la version que j'ai dont j'avais parlé, ce truc là était fixe au centre du regard, et la Varjo ou Vario, je sais pas exactement comment ça se prononce.
C'est plus rigolo de dire Vario, il y a plus de jeux de mots à faire.
Ouais, bah évidemment, c'est complètement Vario. Évidemment, ils ont évidemment le projet de suivre le regard et d'avoir une vision, comme ils appellent, à 100%, 10 sur 10, ouais, partout, dans toutes les régions de la réalité virtuelle, parce que là, pour l'instant, c'est le seul casque au monde qui est capable de vous donner une résolution qui est équivalente à celle de votre œil, donc c'est une rétina display, mais uniquement au centre au centre de l'écran.
Ce qui suffit dans l'absolu.
Ce qui suffit, oui, mais bien sûr, mais il faut que si tu tournes les yeux, tu regardes plus la bonne truc. Voilà, il faut que ce soit
réactif. Aussi réactif que la lumière.
Donc là, eux, ils ont des pour l'instant, ils sont dessus. Tout simplement, ils sont en train d'essayer de faire ça. Pour l'instant, ils ont un suivi de regard qui est extrêmement rapide et beaucoup, beaucoup plus détaillé que les suivis de regard classiques. Il faut savoir que c'est un casque qui coûte 7 000 $ pour l'instant et qui est donc aussi réservé aux pros. Mais voilà, les choses avancent assez vite. Et bon, pour finir, on peut aussi parler d'une... Alors moi, ça m'a beaucoup surpris. Tu sais que la cinétose, c'est un problème pour la VR, hein, c'est-à-dire c'est le mal des transports.
Ouais, c'est le fait que ton œil voit un truc et que ton oreille interne ne comprend pas la même chose. Et donc, effectivement, comme en voiture, ça peut te rendre malade, tout simplement.
Exactement. Et ben en voiture, il y a des solutions qui ont été développées, qui sont sous...
Il y a l'homéopathie,
plusieurs
déjà.
Formes.
Pardon.
Oui, non, non, absolument pas. Mais non, alors il y avait une solution, c'était des lunettes bizarres, complètement, qui ont l'air vraiment très très étranges, puisque c'est des lunettes dans lesquelles il y a un liquide. Et ce liquide, il a la particularité de, même si tu bouges, de toujours indiquer l'horizon, toujours indiquer une horizontale fiable. Ah. Et apparemment, avoir un repère d'horizon, avoir un repère d'horizontale fixe, ça permet de limiter la cinétose. Et c'est le principe qu'utilise Boarding Ring. Et Boarding Ring, c'est quoi? C'est une petite entreprise qui a la particularité, qui à moi me parle beaucoup, d'être originaire du Var, et en fait d'être originaire d'une petite ville, dans laquelle j'ai habité très longtemps. Donc c'est assez rigolo, ça m'a fait marrer. Donc Boarding Var, c'est donc leur système qui est composé de petites LED qui se mettent presque à la périphérie du champ de vision. Et ces petites LED, en fait, elles sont reliées à une centrale inertielle et elles ont pour fonction de faire comme le liquide dans les lunettes, c'est-à-dire de donner un repère fixe au cerveau pour limiter la cinétose. C'est un système qui est déjà implémenté dans les voitures, enfin qui peut déjà être implémenté dans les voitures sous forme de petites barres de LED dans l'habitacle, qui pareil en fait, il y a un petit capteur qui permet d'avoir une sorte de ligne d'horizon fixe. Et donc le but, c'est d'intégrer pareil des petites LED sur le côté des casques pour y limiter la cinétose. C'est une idée qui est très simple. Je sais pas du tout si c'est efficace. Franchement, je n'ai aucune idée. Bon, si c'est aussi simple que ça pour atténuer la cinétose, bah écoute, tant mieux, faudra voir, mais bon, c'est une piste en tout cas.
Bon, c'est jamais de toute façon totalement efficace ou totalement inefficace. Je pense qu'il y a une partie des gens pour qui ça va aider, parce que j'imagine qu'effectivement la cinétose ne se manifeste pas de la même manière pour tout le monde en plus, donc ça doit être compliqué de répondre à tout le monde, et c'est peut-être la somme des innovations qui va aider. J'avais une question par rapport aux usages justement de la VR là, pour ceux qui portent des lunettes, tout simplement, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Je fais une parenthèse, hein, c'était pas par rapport aux news, mais c'est plus ta passion de la VR que j'invoque. Sur ce calcul, ce rendu fovéal, est-ce que les technologies arrivent à très très bien le faire, même quand c'est pour un porteur de lunettes qui utilise le casque VR?
Non, alors quand tu portes des lunettes et que tu utilises un casque VR, il faut porter tes lunettes avec le casque VR. Parce que
comme si tu portes des lentilles, les lentilles sont fixes aussi.
Oui, tout à fait. Ou des lentilles, oui, tout à fait. Tu dois les porter en même temps, parce que globalement les lentilles qui sont montées dans les casques VR, elles sont fixes. Tu peux pas les changer, et donc elles font le point à un endroit fixe, et donc tu peux pas, voilà, ça marche pas. Cela dit, ce que tu peux imaginer, c'est que, et d'ailleurs c'est possible en fait pour le PSVR, c'est coller des lentilles supplémentaires à l'intérieur de ton casque VR qui servent de lunettes, et donc tu peux utiliser ton casque sans lunettes.
J'ai compris, donc tu rajoutes la correction nativement dans les lentilles du PSVR, quoi.
Et exactement.
Mais par contre, c'est sur mesure, faut aller voir ton opticien, faut lui dire je veux des verres de lunettes.
Absolument.
Ah, d'accord.
Ouais. Okay. Il y a un site web qui propose ça. Il y a un site web qui propose, tu lui envoies ta correction et il t'envoie des lentilles à coller dans ton PSVR pour que tu puisses utiliser sans lunettes.
Ok, écoute, pour l'occasion, je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés, donc n'hésite pas à mettre le lien dans les notes de l'émission, même si j'imagine que les concernés se sont renseignés bien avant moi. Mais je trouve ça assez intéressant. J'avais un dernier élément que je voulais relayer par rapport à la réalité virtuelle, mais comme je l'ai mangé, on va pouvoir gagner du temps et enchaîner avec les news suivantes. On parle de techno, d'appareils, parce qu'il y a une guéguerre qui a pris de l'ampleur de plus en plus au fur et à mesure de tous ces derniers mois d'ActuTech, et on l'a relayé assez régulièrement. C'est la guéguerre qui oppose Apple et Qualcomm pour des notions de brevets, pour des notions de prix à payer par iPhone, des choses qui sont assez complexes qu'on va pas redétailler, mais il y a du nouveau surtout, et c'est pour ça qu'on en reparle, Guillaume.
Oui, alors là, je peux te dire, heureusement, le 32 fer a repris, hein, parce que parce que la saga qui nous a occupé ces derniers mois et qu'on pensait nous accompagner encore pendant des années, hein, elle s'est terminée lundi dernier de manière assez abrupte et un peu décevante, faut avouer. Alors, si on peut même plus compter sur Apple et Qualcomm pour assurer le show, franchement, c'est la dèche. Parce que bon, le 15 avril dernier, le premier jour du procès principal qui opposait les deux monstres, ils se sont finalement mis d'accord. Voilà. Apple reprochait, alors on rappelle, hein, à Qualcomm, effectivement, d'abuser sur les royalties en profitant de sa position dominante, alors que lui, Qualcomm, il disait qu'il accusait Apple directement de vol de brevets. Bon, depuis janvier 2017, c'était la guerre dans le monde entier, jusqu'à avant-hier, voilà, où ils se sont mis d'accord avec un gros chèque d'Apple, quand même. Hein. Et donc, voilà, ils vont pouvoir retrouver un petit peu leur petite routine, comme ça, petite routine industrielle, pour les 6 ans qui viennent. Alors, pourquoi la pomme s'est dégonflée? Parce que quand même, elle préparait cette confrontation, je suis sûr, depuis des années. Hein. Déjà parce que ça aurait été sanglant, les deux parties auraient pu exposer des secrets industriels publiquement, peut-être des secrets qu'on n'aurait pas voulu ébruiter, donc voilà, ça faisait les affaires de personne. Mais en plus, peut-être qu'Apple n'a pas eu le choix, parce que sans modem 5G Qualcomm, à qui s'adresser? Naturellement, à Intel. Sauf qu'on vient d'apprendre que ce dernier avait jeté l'éponge sur les modèles 5G pour smartphone. Alors c'est très surprenant, vraiment, hein, parce que les premiers modèles étaient prévus pour 2020, et en novembre dernier encore, ils étaient chaud bouillant. D'ailleurs, jusqu'au début avril, hein, on avait des news sur le fameux XMM8060, qui prévoyait... pour les smartphones, et en particulier qu'on voyait déjà dans les iPhones 5G. Voilà. Et c'est un truc encore plus étrange qu'Intel continuera à produire des modems 4G et même 5G, mais pour PC. D'après le communiqué de presse, Intel se voit pas d'avenir rentable vraiment dans le segment, dans le segment smartphone. Et donc il s'agira d'une discussion stratégique. Alors du coup, on comprend mieux pourquoi Apple a joué l'apaisement, puisque s'il veut des iPhones 5G en 2020, il n'avait pas d'autre choix, c'était Intel ou les Chinois. C'est compliqué ce moment avec la Chine, d'ailleurs, en parlant de ça, on a aussi appris qu'Apple pourrait étendre significativement sa production en Inde, pour des raisons économiques et diplomatiques, mais plus économiques, je suppose, que diplomatiques. Déjà, la main d'œuvre est moins chère. Et puis, ben, comme c'est un énorme marché, si tu produis là-bas, ça permet d'éviter les taxes d'import et donc de baisser le prix final des téléphones, hein, c'est qui en ont bien besoin, surtout dans un pays où le niveau de vie est quand même plus bas.
Effectivement, on est d'accord. C'est effectivement assez surprenant comme rebondissement, pour ne pas le qualifier de conclusion sur cette guerre. Eh ben, on verra si ça tient. Je vois pas comment ça pourrait revenir quand il y a un tel revirement. Je pense que là, désormais, c'est une orientation à peu près certaine et qui change un petit peu la donne des orientations qu'on voyait venir. On a bouclé nos grandes rubriques de news, mais surtout ne nous quittez pas parce qu'on a toute la rubrique en bref et nos bonus qu'on va vous apporter pour conclure cet épisode de Tech Café de cette semaine. Juste avant qu'on enchaîne, je voulais relayer les deux dernières évaluations de Tech Café, le podcast sur l'application podcast de l'iPhone, qui est une application qui permet d'avoir une vue un peu catalogue sur les podcasts. Alors il y a beaucoup d'autres catalogues au travers des autres applications de podcast, mais c'est quand même intéressant d'y regarder. C'est une grosse part des écoutes. Alors j'ai deux avis qui ont été publiés le 4 avril et le 6 avril. Alors je vais commencer par le premier, qui est donc Bertie54, qui dans son titre d'avis a mis boulard, et dans l'avis des mecs qui s'écoutent parler, très peu objectifs et qui donnent des leçons au monde entier, mais du coup marrant et qui permet de travailler le contrôle de soi. Donc il a mis 5 étoiles quand même, donc je sais pas s'il y a de l'ironie, mais je pense qu'il y a beaucoup de critiques. Et tu sais, j'ai toujours été partisan de dire, Guillaume, que c'était quand on avait des critiques qu'on commençait à récolter les rançons de la gloire, surtout des critiques de ce type. Donc peut-être qu'on arrive enfin à décrocher le niveau de gloire ultime. Et sinon, pour contrebalancer, je voulais relayer aussi l'avis de Gilou, qui a déposé 5 étoiles et qui a dit: publication régulière, précise et claire, avec des intervenants très intéressants et compétents. J'ai écouté pendant longtemps plusieurs podcasts sur le high tech et maintenant je n'écoute que celui-là. Bah écoute, merci beaucoup Gilou pour déjà cette position et puis pour l'avoir publié. Si vous êtes vous aussi en train d'écouter Tech Café et qui avez une opinion et qui ne l'avez pas encore relayé, surtout faites-le. Et ça montrera encore une fois la diversité des opinions, parce qu'avec un même contenu, on a des avis assez antinomiques, quand bien même récolte-t-il tous les deux 5 étoiles. Merci beaucoup à vous. On enchaîne avec la rubrique en bref. On commence très rapidement parce que les rumeurs commencent à arriver pour la future version d'iOS qui va équiper les iPhones et les iPads en 2019. Le rythme, il est connu, c'est la WWDC en juin, où on présente ça sous l'angle des développeurs, mais qui finalement concerne très directement les utilisateurs. Et puis la bêta qui arrive dans la foulée et la mise à disposition du nouveau cru d'iOS avec les nouveaux crus d'appareils de type iPhone à l'automne. Et donc là, on a quelques news, enfin quelques rumeurs du coup sur iOS 13, la prochaine version, parmi lesquelles, bon, il y a un mode sombre, parmi lesquelles il y a des évolutions sur du multitâche qui pourrait être amélioré, notamment sur l'iPad, et on peut comprendre qu'il y a encore des choses qui puissent évoluer sur l'iPad. Deux petits trucs, moi, qui m'ont paru intéressants sur les toutes dernières news de type rumeurs sur iOS, c'est le fait de pouvoir utiliser de manière native l'iPad comme écran externe. Moi, c'est quelque chose que je faisais avec une application qui s'appelle Duet, que j'avais eu gratuite pendant un temps, je crois qu'elle est passée payante, qui permet, donc vous branchez votre iPad et ça vous fait un écran externe à votre ordinateur. Donc ça peut être sympa, mais si c'est natif, c'est encore mieux. Et peut-être une refonte aussi des outils applicatifs de la part d'Apple pour la géolocalisation. Il y a l'application Mes Amis, il y a l'application Trouver Mes Appareils sur iOS, qui vous permet de géolocaliser respectivement les amis qui ont accepté et vos appareils. Et il y aurait une refonte de ces outils, mais surtout aussi, les rumeurs donnent la possibilité qu'Apple commercialise des accessoires qu'on pourrait greffer à d'autres appareils pour les géolocaliser. À suivre, peut-être, ça pourrait être sympa, pourquoi pas. On a parlé de jeux vidéo et notamment de technologie pour les jeux vidéo avec la PS5, avec l'Oculus Quest, avec pas mal d'équipements tout à l'heure, mais on continue là à en reparler dans cette rubrique en bref. Tu as plusieurs petites news autour du jeu, Guillaume.
Oui, bah, ça commence à devenir la chasse, hein. Là, c'est assez impressionnant, puisque au Népal, en Irak et en Inde, on fait la guerre au Battle Royale, apparemment. C'est une battle de Battle Royale, puisque bon,
donc le Népal, les Fortnite et les PUBG de manière générale, mais même
exactement, exactement. Exactement. Alors donc là, il y a le Népal qui a bon banni PUBG, qui est devenu complètement voilà. Donc c'est le Népal Telecommunication Authority qui donc veut virer PUBG. Fortnite et PUBG vont probablement être aussi interdits en Irak. Voilà. Bon, par exemple, je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi. Enfin, si, en novembre, il y a un jeune garçon qui a accidentellement tué un de ses amis avec un fusil en Erbil. Et pourquoi? Parce qu'il disait qu'il faisait un roleplay PUBG. Donc tu comprends, mais comme il faisait roleplay PUBG qu'il a tué quelqu'un, c'est la faute de PUBG. Voilà. Donc, ils auraient joué aux gangsters et aux bandits, aux voleurs. Ça aurait été la faute de la police. Je sais pas, je vois pas. Bon, bah, PUBG Mobile est aussi donc sur la sellette en Inde, puisqu'il y a déjà des villes qui ont interdit le jeu. Donc il y a par exemple Rajkot, Ahmedabad et Imadnagar.
Oui, désolé. Non mais c'est bien, c'est bravo.
Voilà, je fais l'effort. Et du coup, bon, voilà, c'est probablement d'ailleurs anticonstitutionnel, mais bon, et ça n'empêche pas que apparemment Bombay, la haute cour de Bombay, veut aussi bannir PUBG. Je comprends pas très bien qu'est-ce que c'est que cette chasse au Fortnite et compagnie, parce que je vois pas très bien non plus qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à d'autres jeux qui pourraient aussi être addictifs. Je vois pas. Et surtout, la violence de Fortnite, c'est quelque chose quand même. Hein.
Ouais. Ça ressemble un petit peu au débat, peut-être même encore moins justifié, mais parce qu'on a le recul et puis peut-être qu'il y a des éléments culturels aussi. Mais avec GTA à l'époque qui avait fait les gros titres parce que ça générait de la violence. Bon, écoute, ouais, je pense qu'il faudrait avoir peut-être des éléments culturels pour mieux appréhender ça. Mais c'est intéressant de relever le mouvement en tout cas. D'autres choses autour du jeu, oui. Guillaume.
Oui, c'est vrai que je peux enchaîner. Alors oui, donc il y a des consoles, tu sais, les consoles rétro, là, la NES Mini, la SNES Mini, la Genesis Mini, et maintenant la Capcom Mini. Bon, elle est pas mini du tout, en fait, puisque ce qui est vraiment étrange avec cette console, c'est que c'est une console de Capcom, hein, comme je viens de le dire, qui regroupe 16 titres, ce qui est vraiment pas énorme. Donc c'est 16 jeux d'arcade. Tous très très bons, tous très très populaires, donc de l'ère 16 bits, hein. On y retrouve Giga Wing, 1944, Alien vs Predator, donc Street Fighter 2, Mega Man, Power Battle, Strider, etc. Donc tout ça c'est très bien, sauf que 16 titres c'est pas énorme, et que ça coûte quand même 200 livres, donc probablement dans les 250€. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une console énorme, qui est en forme d'énorme logo Capcom, ce qui est d'une esthétique qui pourra, disons, être discutée au foyer.
Et en tout cas pas de s'installer dans tous les salons, effectivement.
Ça sera, voilà, ça va pas avec tous les intérieurs, on va dire. Et par contre, il y a des sticks et des boutons de très bonne qualité, ouais. Apparemment. Donc, le prix est là, je pense, ça, c'est qu'en fait, c'est une grosse machine. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer à deux, puisqu'il y a deux sticks et deux ensembles de boutons. Donc, on peut jouer à deux côte à côte, ce qui est vraiment très sympa, faut le dire. Deux sticks arcade pour jouer à deux sur des gros titres, c'est quand même vraiment bien. Bon, cela dit, c'est un peu cher, c'est un peu gros. Je sais pas exactement si ça va pas devenir, un objet de collection plus qu'autre chose. Mais bon, c'est quand même intéressant à signaler.
Ouais, ça affiche la fierté de Capcom. Tu sais, je suis allé chez un ami il y a pas très longtemps qui est grand grand fan hein, jeux vidéo, qui s'est acheté des bornes d'arcade japonaises qui ont été importées, alors que même qui restaure, hein, c'est-à-dire qu'il va les démonter, il les nettoie avec un soin absolument incroyable. Il nous écoute peut-être, en tout cas il soutient Tech Café via Patreon, donc c'est une raison de plus pour lui faire un clin d'œil. Mais il y a un plaisir que je ne connaissais pas. Parce que ça faisait pas partie.
Je les ai entrevus.
Ouais.
Je les ai entrevus. Je lui fais mes compliments.
Ah oui. Alors c'est. Enfin, il est extrêmement soigneux et. Enfin, c'est magnifique. Et j'avoue que moi, c'est pas ma culture. Plus petit, je jouais pas sur borne d'arcade. J'ai dû y toucher une fois ou deux. Et j'ai en fait finalement vraiment découvert ça en faisant des parties avec lui de Puyo Puyo, de jeux de combat. Justement, c'était Capcom aussi. Donc c'était rigolo parce que je voyais le jeu qui était sorti avant Street Fighter où il y avait des personnages. C'était Blanca en fait. C'était les monstres là avec leur grande queue. Bon bref. Et il y avait un plaisir à jouer avec les manettes comme ça qui est assez indescriptible. Et je pense qu'il y a peut-être un créneau à creuser pour les consoles. Et je comprends qu'il y ait cette proposition de la part de Capcom. Effectivement, le prix n'est pas négligeable, ça c'est clair. D'autres choses
dans
les jeux.
Oui, on peut continuer. Oui, bah très rapidement. Donc, on avait déjà parlé d'intelligence artificielle qui jouait à des jeux et qui poutrait tout le monde. Cette fois, c'est à Dota 2. Alors, je joue pas à Dota 2. Je joue pas assez à ce genre de ou MOBA. En fait, je connais pas très bien l'univers du MOBA, donc je vais aller très très vite. C'est juste que c'est OpenAI qui a un algorithme qui s'appelle OpenAI 5, qui est capable de battre des pro gamers à Dota 2. Et qui en a d'ailleurs battu, ils ont battu 3 fois de suite. Et voilà, donc c'est vraiment, vraiment impressionnant, puisque ça a l'air quand même d'être un truc un petit peu comme StarCraft, hein, c'est un truc de jeu de stratégie qui est assez difficile, qui est même très difficile à maîtriser. Et donc ce qui est intéressant, c'est que Five peut aussi jouer avec toi, c'est-à-dire tu peux jouer en coopératif avec lui ou en compétitif avec lui, et tu peux même jouer contre lui toi-même maintenant tout de suite, il suffit de t'inscrire, puisque jusqu'au 22 avril, enfin non, je veux dire, tu peux t'inscrire pour une compétition qui aura lieu du 18 au 22 avril, et qui donc, des joueurs seront sélectionnés pour jouer contre lui, donc tu auras l'occasion de jouer contre l'IA, et de te faire défoncer la gueule très probablement, mais c'est toujours rigolo.
Ouais, c'est toujours rigolo, c'est vrai que, enfin moi j'ai des souvenirs là aussi de Warcraft 3, Starcraft 2, en réseau, alors, c'est vraiment les jeux, moi ça me frustre en fait, j'y prends beaucoup de plaisir, mais je me fais quand même défoncer à chaque fois, je pense que j'ai pas assez de temps à y consacrer malheureusement. On a parlé tout à l'heure de la Xbox, j'en ai fait une mention rapide, donc l'annonce de la Xbox All Digital.
Oui, on a tout dit, je pensais, All Digital, donc lancement en mai à 229,99€. Bon, c'est la première console de salon tout dématérialisée, c'est vrai. D'ailleurs, la pub, tu as routé une pub qui est très, très savoureuse puisqu'elle est très marrante.
Il y a
ils se moquent d'eux-mêmes. Il y a énormément d'autodérision, c'est très sympa à voir. C'est d'ailleurs ce que je préfère dans cette console, très honnêtement. Puisque bon, soyons clairs, à 230€, hein, voilà, cette Xbox One All Digital est plus chère que certaines occasions que je vois passer sur le net, puisque des Xbox One S standard, j'en vois passer à 220, 200 des fois, avec des promos, etc. Bon, donc je suis un petit peu dubitatif quant à sa pertinence, puisque voilà, pour le même prix, ou même parfois moins cher, vous pouvez avoir la même chose avec un lecteur Blu-ray. Bon, étant donné que la Xbox One S fait lecteur Blu-ray 4K HDR, ce serait pas très presque dommage de s'en priver, ou pas, puisque, d'après j'enchaîne sur la news d'après, justement, ben les DVD et les Blu-ray, on s'en serait un petit peu douté, se vendent de moins en moins bien. On a maintenant des chiffres, c'est 50% de baisse en 5 ans, puisqu'il y avait 25 milliards en 2014 et 13,1 milliards en 2018. Voilà, donc c'est quand même vraiment très significatif. Plus étonnant, les DVD, c'est encore 57,9% de la vente de médias physiques, et les Blu-ray 4K, c'est seulement 5,3%. Pourtant, c'est quand même quelque chose qui a été introduit en 2015 et qui manifestement n'arrive pas à décoller.
Ouais, ça prend pas.
Est-ce que... Non, ça prend pas. Et dans le même temps, les souscriptions au streaming en ligne, ben, elles ont cru de 27% à 613 millions en 2018. Donc, c'est encore plus que le câble aux États-Unis. Donc, c'est quand même vraiment, les tendances sont assez claires, quoi.
Je crois pas du tout, pour en revenir à la Xbox One S All Digital, je crois pas du tout que ce soit une volonté de faire une itération, que ce soit d'ailleurs commercial ou technique. J'ai clairement le sentiment que c'est un test grandeur nature pour voir l'appétence des gens à ce type de produit pour axer la prochaine génération de la Xbox. Je sais pas si c'est réaliste, je suis pas expert, mais je trouve ça pas débile de proposer une itération de la console actuelle en risquant pas trop sur le plan budgétaire pour voir si jamais il y a une adoption, parce que c'est quelque chose sur lequel il y a probablement pas beaucoup de recul à une échelle grand public, et c'est sans doute pour moi un moyen de tester l'appétence. Et c'est très malin de présenter ça comme étant une évolution, y compris dans la pub un peu rigolote avec de l'autodérision qui montre comment on peut la faire évoluer vers le digital, etc., vers le all digital. Bah, ma conviction, c'est très malin dans la démarche industrielle de tester ce type d'optique avant d'autres itérations. Je sais pas si c'est complètement spéculatoire ce que je dis, parce que je suis pas expert. Hein. Guillaume, d'autres éléments en bref, notamment avec Uber.
Oui, Uber va entrer en bourse, ça y est, parce que pour l'instant c'est toujours d'ailleurs une entreprise privée, c'est-à-dire avec des capitaux privés, et là ça y est, ils vont entrer en bourse, et donc qui dit entrer en bourse dit Initial Public Offering, que je sais plus comment on dit en français. Donc une IPO, et cette IPO, c'est 10 milliards de dollars. En fait, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent proposer, 10 milliards de dollars d'actions à la vente. Dans le cadre de cette introduction, Uber vise une valorisation qui sera comprise entre 90 et 100 milliards de dollars. C'est quand même pas mal. Mmh. Alors, est-ce qu'il a une chance d'atteindre ça? C'est probable. Hein. Cela dit, il faut voir que Lyft, qui a aussi donc fait son IPO il n'y a pas très longtemps, ben, ça s'est très bien passé, justement. Le problème, c'est que l'action a quand même perdu, puisqu'elle était à 72 dollars à son introduction. Et là, ben, elle est plus qu'à 67,44 dollars. Donc,
ça
finalement,
fait pas tant perdre que ça, non, si je dis pas de bêtises, parce que les introductions en bourse de ce type-là, en général, baissent et ça peut carrément s'effondrer peu de temps après. Donc, ils ont plutôt bien maintenu le prix de l'action, non?
Ben, pour l'instant, oui, mais bon, ben, c'est pas non plus foufou, quoi. Donc, je sais pas exactement. Bon, voilà. Donc, bientôt, ça y est, Uber entre en bourse, sans, pour l'instant, avoir fait preuve d'être vraiment rentable sur le long terme, je pense.
C'est plus un enjeu, ça, maintenant. C'est plus un enjeu de nos jeux.
Mais non, la rentabilité, bon.
On verra plus tard. Il y a un sujet qui te plaît particulièrement, c'est ces évolutions technologiques dans la publicité qui vont aller nous faire rêver, vous comprenez mon ironie, en nous dirigeant notre regard vers le ciel pour que les publicités fassent partie intégrante du paysage. Voilà un avenir idéal, idyllique, que Guillaume attend avec impatience et ça se rapproche.
Oui. Mais oui, mais on avait déjà parlé de la compagnie russe Star Rocket, ouais, qui a envisagé d'envoyer des petits CubeSats, donc des constellations de mini-satellites réfléchissants, pour fabriquer ni plus ni moins que des panneaux publicitaires dans le ciel nocturne. Et je m'étais foutu leur gueule en disant que voilà, c'était strictement n'importe quoi, et j'espérais bien entendu que personne allait acheter ce genre de conneries. Sauf que bien entendu, oui, d'après Star Rocket, PepsiCo, ni plus ni moins que Pepsi, serait partant pour envoyer donc une pub Pepsi dans l'espace qui serait vue de plein de monde. Alors faut quand même savoir que c'est assez cher, puisque c'est 20 000 dollars les 8 heures de publicité dans le ciel nocturne. Cher ou pas cher, je sais pas en fait réellement. Je pense que c'est pas si cher que ça.
Si cher.
Et moi, ça me fait extrêmement peur parce que, franchement, voir une pub Pepsi dans le ciel, mais non, mais je dis non quoi. Je dis non. J'ai l'impression que les mecs de Star Rocket, ils ont pris toutes les dystopies, ils les ont poussées à la moulinette et ils ont sorti cette idée quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Au secours.
Prums, c'est effrayant et on verra si ça sort vraiment. J'aimerais beaucoup qu'il y ait des prises de parole de la part des États sur ce sujet-là. Et c'est compliqué tant que les choses sont pas plus concrètes, mais là, elle commence sérieusement à se concrétiser. Il va falloir avancer. Il y a notre Samsung Galaxy Fold, dont on avait parlé il y a de ça quelques épisodes maintenant, qui tout à la fois enthousiasme par l'évolution technologique qu'il propose et qui en même temps pose beaucoup de questions, que ce soit sur le long terme, que ce soit ça sur les usages, que ce soit sur la manière dont il va évoluer. Et on a une première vague de téléphones en test. Guillaume, qu'est-ce que donnent les premiers tests?
Oui, bah oui, il y a des questions, et puis là, il y a des réponses qui commencent à arriver, et puis elles sont très inquiétantes, parce que là, d'après les échantillons qu'on a chez les journalistes, on a la durée, moyenne d'un Galaxy Fold avant la première panne, c'est une journée. Puisque le mec de The Verge, le journaliste de The Verge qui a eu la chance de tester le Galaxy Fold, l'a utilisé pendant une journée avant que le téléphone ne casse. Alors, il est cassé au niveau de la charnière, il y a un petit truc qui s'est pété à l'intérieur, un petit mécanisme, et apparemment ce mécanisme en plus appuie sur l'écran, et du coup il a des magnifiques barres blanches, en plus d'avoir des gondoles sur son écran à cet endroit-là, il a des magnifiques barres blanches sur son écran OLED qui apparemment est déconnecté à ces endroits. Bon. Le truc c'est que c'est pas le seul, en fait, il y a eu d'autres problèmes un peu similaires, et puis il y a aussi un truc très bizarre, puisque un mec de Bloomberg, par exemple, le journaliste de Bloomberg, a eu un souci parce que il a gratté une petite pellicule protectrice qu'il y avait sur l'écran, qui avait l'air d'être une protection d'écran.
À une protection qu'on a sur les smartphones quand on sort de la boîte.
Mais exactement. Donc il pensait qu'il y avait une protection d'écran, et en fait il a arraché la moitié de l'écran, et ça marchait plus. Après.
Il est pas allé de moins morte quand même, hein, parce que.
Ah ouais, non, mais c'est une brutasse aussi. C'est les Américains, ça. Et donc, bon, le problème, c'est qu'il y a deux personnes qui ont fait ça, qui ont vu cette espèce de pellicule sur l'écran, qui se sont dit, c'est une protection d'écran, je vais la virer, et en fait, ils ont arraché l'écran. Ça commence assez mal pour le Galaxy Fold, on va pas se mentir. Hein. Donc, ce que j'espère vraiment, c'est que ce sont des unités de test, et que les modèles commerciaux seront plus solides, et avec des trucs un petit peu corrigés, parce que là, vraiment, ça part très très mal.
Donc, c'est carton plein hein, sur les précommandes, je crois, mais... qui m'interpelle, c'est que j'attendais beaucoup de retours aussi sur la manière dont vit la pliure. Et je suis marqué de voir que sur ces photos, au-delà des soucis d'écran effrayants, il y a cette pliure qui est hyper présente visuellement. Et j'imagine au toucher aussi, ça donne l'impression qu'elle est hyper présente, non ?
Oui. Alors, les quelques heures avant que ça pète, à The Verge, ils ont testé le téléphone et effectivement, la pliure, elle y est. Il y a une pliure sur, et elle reste, ouais. En fait. Elle reste là tout le temps. Cela dit, quand le téléphone est allumé, elle est pratiquement pas perceptible. Donc, quand tu regardes le téléphone de face, et qu'il est ouvert, ça pose pas de problème. Même si tu peux le sentir très légèrement sous tes doigts, c'est pas catastrophique. Okay. Après, quand le téléphone est éteint et que tu le regardes de biais, tu vois très nettement la pliure. Donc ça, c'est un truc qui peut gêner ou pas, effectivement. Je suis d'accord. Cela dit, je te rassure, quand le téléphone est allumé, tu peux l'oublier assez facilement.
Ouais, clairement. Mais ça laisse songeur sur la durabilité de ce produit. Bon, allez, un dernier petit mot aussi en bref sur nos fameuses Vanity Metrics, parce qu'il y a eu une intervention de Jack Dorsey, qui est le CEO de Twitter, qui regrette la présence de deux choses dans Twitter. Il regrette le bouton like, donc ce qui était jadis la petite étoile et qui est devenu le petit cœur. Et il regrette aussi le fait qu'on affiche le nombre de followers sur un compte. Alors bon, c'est toujours facile de dire ça après. Je pense que ça a fait aussi en partie à l'époque le succès du lancement de Twitter. Donc c'est toujours facile de critiquer des vanity metrics a posteriori, mais il y a quand même peut-être des initiatives, des volontés d'être un petit peu critique sur les usages des réseaux sociaux. Et puis toujours dans les usages des réseaux sociaux, Facebook qui va mettre un terme au paiement entre amis dans Messenger, donc cette possibilité de se virer de l'argent qui n'était pas ouverte non plus partout, mais qui a jamais pris, et tout le monde misait pas sur le fait que ça prendrait pas. Il faut reconnaître que les gens, ils ont pas forcément envie de pouvoir payer sur leur plateforme Messenger, ou en tout cas peut-être qu'ils n'ont pas envie de payer grâce à Facebook, allez savoir. On a déroulé toutes nos news, vous êtes calés cette fois-ci, je pense aussi sur toutes les news tech de la semaine, vous êtes à jour, vous pouvez le dire en société, vous pouvez le dire à la machine à café que avec l'émission vous êtes complètement calés, et vous pouvez même partager l'astuce à votre entourage s'ils veulent faire comme vous, de s'abonner à Tech Café. Vous pouvez même prendre quelques minutes pour leur montrer le monde merveilleux des podcasts, il y a d'ailleurs pas que Tech Café. Mais avant de conclure, on va quand même parler des bonus, donc chacun une petite recommandation, une petite mention, voire même parfois des petites critiques. Guillaume, qu'as-tu emmené dans ta besace pour cet épisode de Tech Café ?
Moi, je viens de finir une série de mangas assez courte qui est donc en 6 tomes. Donc ça s'appelle Le Couvent des Damnés, c'est chez Glénat.
Sort le fantôme.
C'est de Minoru... Pas du tout. C'est de Minoru Takeyoshi, qui est donc une auteure de manga, une mangaka. Ça se passe au XVIe siècle, ça se passe en Allemagne, et ça se passe donc au temps de la chasse aux sorcières. Et l'histoire, donc, c'est l'histoire d'une orpheline, pour le faire très vite, c'est l'histoire d'une orpheline qui, donc, perd sa mère adoptive pendant la chasse aux sorcières, et qui va se retrouver dans un couvent très particulier, dans lequel on met, en fait, toutes les filles de sorcières, pour les transformer en sœurs modèles, en nonnes modèles. Et c'est une œuvre qui est relativement courte, comme je l'ai dit, 6 tomes, donc du coup c'est pas très...
C'est bouclé en 6 tomes,
c'est gérable, voilà, c'est bouclé, il y a une vraie fin, l'histoire se tient, et c'est un manga qui a énormément plu, même aux autres mangaka, puisque l'auteur de Fullmetal Alchemist, par exemple, et l'auteur de Vinland Saga ont adoré ce manga, et moi aussi j'ai beaucoup aimé, parce que c'est l'histoire d'une vengeance, tout simplement, de cette fille, qu'on va voir grandir donc dans ce couvent des damnés, le partage des eaux. Et l'histoire donc mêle à la fois l'histoire donc de cette fille et de celle qu'elle rencontre, des autres donc sœurs qu'elle va rencontrer, de sa vengeance, de sa ténacité absolument incroyable qui rend ce personnage vraiment très très attrayant. Tous les personnages d'ailleurs sont très attachants. Ce sont que des filles. Il y a, évidemment, ça se passe dans un couvent, donc il y aura pratiquement que des filles. Et ce sont que des personnages qui sont vraiment très forts, très bien brossés, très attachants. Il y a donc le grand méchant est aussi une femme. Enfin, je veux dire, c'est un manga qui est assez féministe finalement et dans le bon sens. Voilà, il y a que des portraits de femmes fortes, complexes, très très bien faits. C'est magnifiquement dessiné. Et donc, je recommande cette série de mangas, Le Couvent des Damnés. Attention, c'est quand même assez violent. C'est même très violent. Il y a aussi beaucoup de violence psychologique. C'est classé en seinen, donc c'est pas pour les yuki. Et je suppose que ça pourra convenir. Alors si vous hésitez à l'acheter, et je vous donne un tuyau, c'est comme ça que je l'ai lu moi-même, peut-être que vous avez une bibliothèque municipale autour de vous, et ben peut-être qu'elle l'a, parce que ça fait partie des mangas un petit peu historiques, comme ça, consonance historique que les bibliothèques peuvent avoir. Et franchement, pour lire des mangas, ben, les bibliothèques municipales, c'est un excellent tuyau, donc n'hésitez pas à faire un tour.
C'est marrant que tu dis ça, parce qu'effectivement, dans ReLife, qui est un autre podcast sur l'amélioration du quotidien que je fais avec mon ami Matt, que je salue, on a parlé à plusieurs reprises de plein d'astuces autour de la lecture. Et la base, c'est effectivement les bibliothèques, et on soupçonne pas parfois, c'est des endroits qu'on devrait plus revisiter, les bibliothèques. Bon, très bonne reco, je me rappelle que t'avais recommandé Made in Abyss, qui m'a traumatisé. Je sais pas si je dois lire du coup ce manga, peut-être que je vais me laisser tenter si j'ai un petit peu plus de temps par la suite. De mon côté, ça va être très simple, et ça va être moins onirique, moins inspirant probablement, et beaucoup plus terre à terre, mais Orange a lancé une application pour éviter les appel indésirable, ça s'appelle Orange Téléphone, et donc vous installez ça sur votre smartphone, et ça va bloquer, ou en tout cas avertir des appels intempestifs, et c'est maintenu en gros par une assistance côté Orange. Donc ça vous détecte les appels qui sont potentiellement malveillants, et j'en parle d'autant plus que c'est pas que pour les abonnés Orange. Donc si vous êtes abonné n'importe quoi, Bouygues, SFR ou que sais-je, vous pouvez tout à fait utiliser cette application qui fonctionnera tout aussi bien, et après tout c'est peut-être pas plus mal. Moi je continue à être un petit peu embêté par des appels intempestifs pour des déductions fiscales, des trucs comme ça, des trucs qui m'intéressent pas trop de manière générale. Donc voilà, si vous êtes dans mon cas, peut-être que vous serez intéressé, le lien est dans les notes de l'émission. Guillaume, merci beaucoup pour toute la préparation de l'émission que tu fais toujours avec autant de soin, et je vous invite une fois de plus à aller lire les notes de l'émission, même des anciens épisodes, hein, faut aller regarder aussi la manière dont c'est écrit, dont c'est enchaîné. Accessoirement, ça vous permet de recreuser les sujets qu'on a abordés. Donc merci beaucoup pour toute ta préparation et pour ta présence, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
Eh bien là, on va pas me retrouver des masses, parce que la semaine prochaine, je vais pas être très 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 disponible, donc même sur Telegram, ça risque d'être un petit peu compliqué, je vais me faire discret, je vais me faire furtif.
Bon, très bien, eh ben profite de ta furtivité pendant quelques jours, et de ton repos bien mérité, c'est pas trop du repos, mais bon, merci beaucoup en tout cas Guillaume, et pour ma part, donc c'est Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur le lien en bas des notes de l'émission, mais sur guillaumevendée.fr, où vous retrouvez mon site qui a la vertu d'avoir des liens vers à peu près tout et n'importe quoi qui peut toucher à mes activités en ligne. Merci beaucoup pour votre fidélité à Tech Café, pour tous vos bons mots que vous nous transmettez, pour vos écoutes, et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à tous.
Ciao à tous. We'll be right back.